Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vous pensez que vous ne pouvez pas changer facilement de métier? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 474. J'espère que vous allez bien, l'énergie, la patate, l'envie de faire des nouvelles choses, des nouveaux projets, du contenu, du blog, de la vidéo, de l'Instagram, du podcast. Hein. Je sais pas de quoi vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de partager. Mais aujourd'hui, j'espère que mon invité va vous donner envie de partager de nouvelles choses, d'envisager les choses aussi d'une nouvelle manière, je pense. Son parcours est atypique, hein, il le crée aussi d'une manière qui est un petit peu atypique. Il s'appelle Rémi Barbier, alias Coaching Fruité. Il est blogueur nutrition, mais en fait, il a fait d'autres métiers. Il est arrivé un petit peu là, vous allez voir, son parcours est un petit peu étonnant. Hein, il a voyagé et il a aussi voyagé dans les métiers, même s'il n'en avait pas vraiment les diplômes. Et c'est ce qui nous explique comment il est passé d'un métier à l'autre, hein, son évolution est très intéressante. Rémi, je l'ai invité parce que j'apprécie beaucoup son travail, mais j'apprécie aussi, vous voyez, son état d'esprit, son mindset, hein, comme on dit, son état, son humeur, vous voyez, le sourire. Si vous allez sur son site, coachingfruité.fr, vous allez voir un grand sourire. Si vous allez sur son compte Instagram, vous allez voir un grand sourire, plus un grand rangement, hein, de son compte, qui est d'une propreté, enfin, propreté au sens, vous voyez, les lignes sont alignées, les couleurs, tout ça, c'est travaillé, c'est réfléchi, et c'est ce qui m'intéressait aussi dans le travail de Rémi. Il est déjà passé dans le podcast sans trop le savoir, puisqu'en fait, on l'a mentionné avec Tiffen de Yogi Lab dans l'épisode 434. On a parlé d'un certain Rémi, et ben le Rémi, c'est lui. Pourquoi Tiffen en avait parlé? Ben, tout simplement parce qu'ils travaillent ensemble, hein, sur Yogi Lab et sur certains contenus, et en fait, Rémi va nous expliquer, hein, ce qu'il fait, comment il travaille, etc. On a parlé de comment il crée du contenu, comment il apprend des choses, comment il envisage aussi le sport. On a parlé de yoga, on a parlé de stoïcisme, on a parlé de routine, on a parlé d'habitude, on a parlé de nutrition, on a parlé de voyage, on a parlé de l'anglais, on a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fin de compte. Ce qui fait que finalement, je l'ai invité un bon moment, hein, mais vraiment comme ça, on a parlé, je pense, 1h30, vous voyez, environ, hein, grosso modo. Et on a parlé de toutes ces petites choses, vous voyez, qui font aussi le quotidien. Alors bien entendu, Rémi a sa vie avec son quotidien à lui, il est capable, il peut faire 1 heure de yoga le matin, là où nous, nous pouvons pas le faire, mais nous avons aussi nos autres habitudes, hein, chacun a ses habitudes, etc. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est vraiment, moi je trouve, c'est son état d'esprit, son sourire. Vous allez entendre son sourire, vous allez entendre sa passion, vous allez entendre son dynamisme, et c'est vraiment, vous voyez, ce côté-là que j'apprécie énormément. Rémi nous partage plein d'astuces, et notamment, vous allez voir, à la fin, une astuce qui est assez intéressante, c'est son conseil des sages. On a parlé de son conseil des sages. Il va vous expliquer ce que c'est son conseil des sages. Et puis, je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Vous irez sur le site, hein, votrecoachweb.com/474. Je vous mettrai des vidéos parce qu'en fait, il m'a envoyé une liste de vidéos. Les vidéos qu'il trouve représentatives par rapport aux personnes qui font partie de son conseil des sages. Vous allez voir un petit peu le principe et vous comprendrez vraiment le principe. Donc, je vous laisse écouter cette discussion avec Rémi. Je vous précise aussi que Rémi, il en parle, hein, dans l'épisode, a suivi la formation devenir créateur ou devenir un meilleur créateur de contenu ou créer un meilleur contenu en 30 jours. Donc il en parle, je vous mets le lien aussi dans les notes de l'épisode. Vous savez, c'est une petite formation, je fais par mail et tous les jours j'envoie un mail avec un petit conseil comme ça pour mieux créer, pour penser à tout un tas de choses et prendre des nouvelles habitudes. Et il en parle, hein, dans cet entretien. Donc je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant, je vous laisse tout de suite avec Rémi et moi je vous souhaite un très 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 bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Bonjour Rémi, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien et toi?
Ça va très bien. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de t'avoir sur le podcast parce que ça fait un petit moment que je te suis, qu'on discute, qu'on échange des messages. Et en fait, pour tout dire, j'adore ta démarche globale, voilà, le personnage un petit peu. Et j'avais vraiment envie de te faire connaître aux gens, mais je pense que beaucoup ne te connaissent pas. Donc ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter en... Alors je sais pas si t'arrives à le faire en quelques mots, mais essaye.
Ok, ça marche. Bah écoute, au fil du temps, c'est vrai qu'on me l'a souvent posé cette cette question. Donc avant, il me fallait un quart d'heure. Et maintenant, c'est bon, j'ai peaufiné. Eh bien, écoute, avant tout, donc, je suis blogueur santé. Mon truc à moi, c'est de simplifier les grands principes de la nutrition, du sommeil, du stress, de la santé en général, en fait. Et à travers plusieurs supports, des articles, des vidéos, des podcasts. Et au-delà, je passe un petit peu au-delà de l'écran et j'organise aussi des ateliers, des conférences. Je vais vraiment utiliser un maximum de supports et de moyens de transmission. Et mon but ultime, c'est le partage.
D'accord. Tu as quel parcours, quel est ton parcours pour arriver à ce métier-là, on va dire?
Eh bien, il est assez atypique. Parce qu'en fin de compte, j'ai tout fait en autodidacte, entre guillemets. J'ai quelques formations, si tu veux, mais c'est pas un parcours classique avec des études de plus en plus spécialisées, puis le boulot qui va avec. J'ai été disquaire libraire pendant 5 ans, j'ai été chef d'une cuisine à Cambridge. J'ai fait pas mal de choses, généralement les gens me disent « mais combien t'as de vie ?» J'ai que 29 ans, mais en fait j'ai fait un petit peu de tout, rencontré des gens qui avaient beaucoup de choses à dire, et j'ai nourri un peu ma démarche. Je me suis tourné vers des formations pour avoir une vue un petit peu plus académique quand même. Mais on va dire que le savoir, je le récupère via une énorme veille, une veille constante. J'adore apprendre. Et en fin de compte, je me place presque comme une passerelle, en fait, entre la recherche d'une part qui me passionne et le grand public qui n'a pas forcément tout ce temps pour aller lire ces choses, qui des fois en plus sont pas forcément très chouettes à lire, brutes comme ça. Et mon but, c'est de faire la passerelle.
D'accord. Alors attends, donc tu m'as dit que tu as été disquaire libraire et ensuite chef de cuisine?
C'est ça.
Ouais, comment on passe de... Alors moi vraiment, alors là tu viens de piquer ma curiosité, mais comment on passe de l'un à l'autre?
En fait, si tu veux, j'ai attaqué donc disquaire libraire et j'ai pas fait d'études. J'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai eu qu'un regret qui est resté avec ça, c'était de pas avoir appris l'anglais. Je me disais, mince, je me coupe quand même de quelque chose d'énorme, de discussion avec les trois quarts de la planète, d'un contenu incroyable en ligne. Aujourd'hui, on apprend tout, le format est extra, Internet via la vidéo ou l'article, c'est génial, ou même le podcast. Et j'ai commencé à apprendre l'anglais tous les matins, avant de partir au travail. J'adore les routines. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, je vois que toi aussi. J'adore les routines, donc je m'en suis mis une. J'apprenais l'anglais 20-30 minutes avant de partir au boulot tous les jours. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu arrivé au bout de ce que je pouvais faire avec ça. Maintenant, ce qu'il me fallait, c'était passer à l'étape d'après, et donc l'immersion. Donc je suis parti en Angleterre, et là-bas, c'est pas du tout comme en France. Pour trouver du boulot, pour évoluer dans ton boulot, on regarde si tu sais faire. Si tu sais faire, tu fais.
D'accord.
Donc je suis rentré en petit boulot mi-temps, un petit peu là pour faire tout ce que les autres voulaient pas faire. Sauf que au fil des rushs, je prenais de plus en plus de place dans la cuisine. Et puis un jour, notre chef est parti et mon manager m'a dit « écoute, si ça t'intéresse, lundi tu mets une tunique et c'est parti quoi ». Et donc j'ai fait ça pendant un an et donc c'était vraiment très chouette quoi.
D'accord, donc tu es en train de me dire qu'en Angleterre, on peut devenir chef de cuisine sans CAP, sans rien, mais juste comme ça, parce que t'as montré, finalement, t'es devenu indispensable. Il a dit, c'est toi le gars qui me faut pour ma cuisine, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce qui fait que j'y retournerai sûrement. Hein, c'est que là-bas, les choses se passent pas mal, enfin vraiment différemment, et on s'attache vraiment à ce que toi, en tant qu'individu, tu sais faire. Pas sur tes diplômes, parce qu'au final notre vision c'est un peu la veille de ton diplôme, t'as pas le diplôme, t'es un peu pas forcément, t'es pas recommandable, t'es pas efficace, pas efficient, pas reconnu, et le lendemain t'as le papier avec le cachet et là c'est bon, t'es un professionnel sur qui on peut compter. Moi j'aime beaucoup passer par déjà le savoir et les connaissances quoi.
D'accord. Alors ça, t'as fait ça pendant un an et ensuite t'as décidé de quoi, de changer, de partir, de c'est quoi après l'étape suivante?
C'est ça. Oui, le l'autre gap, celui qui me fait passer de chef d'une cuisine à blogueur. En fait, je blogue depuis un petit moment quand je suis en Angleterre, mais de façon totalement décousue, non structurée. J'ai un site que j'ai mis des mois à construire parce que j'y mettais pas forcément énormément de temps et que j'avais pas les connaissances nécessaires. Et là, je me suis dit, ok, j'aime de plus en plus faire ça, là. Si tu veux, à la cuisine, j'avais monté un salad bar et je mettais des aliments en avant chaque jour. en expliquant ce qu'ils apportent, etc. J'adorais commencer à parler de tout ça. Je me suis dit, mais je vais essayer de professionnaliser un petit peu tout ça. Donc j'ai fait une formation en nutrition avec une école en Angleterre. En rentrant, en voyant que la nutrition ne suffisait pas et que le stress ou le sommeil, par exemple, affectait énormément la manière dont on mange et comment notre corps gère ce qu'on mange, bah, je suis enchaîné avec une formation neurosciences. Et en fait, j'ai compacté tout ça et ça a donné un contenu beaucoup plus, moi déjà beaucoup plus sûr, j'étais beaucoup plus sûr de moi et puis avec une portée totalement différente, quoi.
D'accord. Alors, quand on dit formation en neurosciences, alors tu vois, moi je me dis, mais attends, on peut se former aux neurosciences comme ça? C'est quoi le type de formation qui permet de se former aux neurosciences?
Eh ben, tu as un circuit académique hein, qui va t'amener vers ou la recherche ou tout un tas d'autres domaines, et tu as aussi énormément de formations indépendantes qui viennent, par exemple, compléter les connaissances d'un hypnothérapeute ou d'un kiné qui voudrait aller un petit peu plus loin. Donc, qui s'adressent un petit peu à tout le monde, qui vont pas forcément, et donc là, c'est le point un petit peu négatif, qui vont pas forcément t'amener loin, mais bon, on n'y passe pas 5-7 ans, tu vois. Mais par contre, qui sont beaucoup plus détachés du format académique et qui vont être des fois plus à jour, puisque le contenu est mis à jour tous les ans.
Ouais.
Donc, surtout dans un domaine comme les neurosciences, c'est super, super pertinent, quoi.
Et en fait, tu as dit un petit peu, tu avais besoin de... Tu te sentais pas en confiance, donc on peut dire qu'il y a un côté un peu imposteur, peut-être, à un moment donné. Tu te dis, est-ce que j'ai le droit de parler de ça?
C'est ça, exactement. Et je trouve qu'on le fait très vite sentir, en fait. Surtout en France, où le diplôme est roi, on dit, mais t'es qui pour dire ça? T'es qui pour dire ça? T'as beau dire quelque chose de très sensé, de très juste, que tu sais pertinemment juste, parce que toi, ça fait, t'as une routine, tu fais une demi-heure, une heure tous les jours pour acquérir ce savoir. Tu sais que t'es ok, t'es au point. Mais on va te le faire sentir. Il y a un côté reste à ta place, tu sais. Et ces formations-là, elles m'ont autant apporté du contenu qu'une certaine légitimité maintenant quand je parle.
Oui, et en fait, c'est vrai que c'est un problème, et je pense qu'on l'a beaucoup en France hein, sur le format académique. Alors moi, je suis un petit peu mal placé parce que j'étais encore maître de conférence il y a 3 mois, tu vois. Donc et j'ai vu mes derniers étudiants il y a quelques jours, donc je suis très très mal placé pour dire ça, mais c'est vrai quand même que cette prédominance du diplôme, elle est très importante, et puis en fait, elle est rentrée dans nos têtes. Toi qui as vu l'Angleterre, je pense que c'est vraiment un changement qui est important. C'est que nous, on se dit, puis moi je le vois dans mon entourage, on dit ouais, j'ai pas de diplôme pour faire ça, donc je peux pas vraiment le faire, j'ai pas le droit de le faire, etc. Alors que finalement, il y a relativement peu de métiers qu'on n'a pas le droit d'exercer sans diplôme. Alors il y en a certains, et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand tu touches à la diététique, dans ton cas, ça fait partie des métiers par contre qui sont protégés eux par des diplômes, etc. Donc j'imagine quand même que c'est super limite hein, des fois de dire est-ce que j'ai le droit de parler de ça, pas parler de ça, etc. Ça doit être compliqué. Hein.
Exactement, exactement. Et là où en fait il y a quelque chose d'intéressant à explorer, c'est par exemple le statut des naturopathes aujourd'hui en France, qui est un petit peu qui est pas encore défini. Ce qui leur fait, je pense, beaucoup de tort parce que ils auraient vraiment leur approche est extra, surtout aujourd'hui de plus en plus en fait, on en a besoin de cette approche. Et malheureusement, on n'arrive pas encore. Bon, je pense qu'on va faire un joli chemin là, ces prochaines années. Ça se démocratise, on le voit. Hein. Mais effectivement, il y a des créneaux, il y a des sphères comme ça qu'il est difficile d'approcher. Et oui, la différence France-Angleterre, moi je l'ai perçue ne serait-ce qu'en faisant mon CV. En fait, on va te demander déjà qui tu es et qu'est-ce que tu as fait. Chose par laquelle tu termines. C'est le fameux paragraphe que tu raccourcis quand tu vois que ton CV fait plus d'une page. Tu dis, bon, bah, ça, je vais pas le mettre, ça, je vais pas le mettre. Alors que là-bas, on te demande déjà de commencer par, OK, qui tu es comme personne. Et là, je trouve ça vraiment chouette.
D'accord. Alors, j'imagine que toute cette réflexion-là est à nourrir pour définir un petit peu ta marque personnelle. Il y a un truc, avant de parler de ça, d'ailleurs, on a oublié de dire que t'es pas totalement inconnu sur le podcast, parce qu'on a oublié un passage. En fait, t'as déjà fait une intervention dans le podcast sans que les gens n'en sachent, parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de toi, c'était Tiffen de Yogi Lab, qui avait dit un mot sur toi, etc. Et on a dit, oui, il y a Rémi et tout, et puis tu sais, derrière, t'as écouté l'épisode, etc. Donc, pour finir la présentation, en fait, qu'est-ce que par rapport à Yogi Lab, pour reparler de ça comme ça on va boucler, qu'est-ce que tu fais sur Yogi Lab et comment tu travailles là-dessus?
Eh bien, donc Tiffen est une grande amie, c'est un peu mon mentor dans mon chemin en tant que blogueur et dans cette nouvelle activité dans laquelle je me lance. C'est vraiment mon exemple, si tu veux, c'est mon drapeau à l'horizon et c'est mon grand repère. je bénéficie, elle m'a pris sous son aile, je bénéficie vraiment d'un sacré coup de pouce. Et Yogi Lab, c'est un site que j'aime beaucoup parce que j'aime de plus en plus le yoga, je le pratique, j'y m'y forme, je lis yoga le matin. Ma routine de lecture en ce moment, c'est Yoga Sutra, j'étudie, je souligne, je vais tartiner le pauvre bouquin. Et si tu veux, le yoga, je trouve ça incroyable au niveau santé parce que c'est quelque chose d'unique. On dit juste yoga, on le met entre les mains de quelqu'un et en fait, ça diffuse sur tout son mode de vie. Pour faire le lien direct avec la nutrition, j'en parle carrément dans une page sur mon site qui décrit un peu mon approche. Pourquoi le yoga, pourquoi j'y suis aussi proche? Parce que par exemple, ça développe ton alimentation intuitive. On s'est aperçu que les gens qui le pratiquaient mangeaient plus en conscience, mangent moins quand ils ont plus faim. Mangent moins pour contrebalancer le stress, l'anxiété, la fatigue. C'est un outil incroyable et je fais des petits séminaires, j'ai des vidéos sur YogiLab qui parlent justement des neurosciences derrière le yoga. Et quand on voit ce que le yoga via toutes ses petites composantes, hein, méditation, la pratique des postures, etc. Quand on voit ce que ça fait, c'est bluffant. Moi, ça m'a tiré. Je commençais à créer du contenu. J'ai du contenu qui, des fois, rentre pas vraiment dans le cadre nutrition, mode de vie. Et ça rentrait parfaitement sur le site. Donc, je commençais à produire du contenu avec Tiffen. Et puis, en fin de compte, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Je dis, écoute, je pourrais parler de ça et de ça et de ça aussi. Puis, elle m'a dit, il faudrait que tu fasses des vidéos. Alors, pour le coup, ça a été mon grand pas en avant parce que les vidéos, c'est pas trop mon terrain de jeu. C'est pas encore ma zone de confort. Ça tend à le devenir avec l'habitude, mais ça m'a fait passer ce cap-là. Donc, j'ai des vidéos sur YogiLab. Je participe vraiment au contenu et à l'essor de la plateforme. Je vais y sortir pas mal de choses. Je vais sortir un guide dans une semaine. J'ai quasiment un guide par mois jusqu'au mois de mai. J'ai le cerveau qui tourne vite. Des fois, c'est un peu gênant. J'avoue que c'est fatigant. Mais s'il y a un point positif à tirer, c'est que oui, pour le coup, ça produit.
Ah oui, alors moi je comprends la fatigue de ton cerveau parce que des fois on a du mal à s'attacher à suivre notre cerveau, hein, c'est ce que je regardais un petit peu. Moi ce matin je faisais le plan, tu sais, j'ai pris mon bullet journal, etc. Et j'attendais que pour tout dire, je donne les trucs, on enregistre, on est lundi, et ce matin à 6h47 j'ai mis un message en disant ce matin j'ai fait mes pompes, ma méditation, mon yoga, j'ai fait une vidéo, un épisode de podcast, et je me suis retrouvé à 6h47, j'attendais que mon infusion se termine. Et j'étais en train de noter des trucs, je dis « Ah, formation, atelier, tac, 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 tac. » Et j'avais une liste qui s'allongeait. J'ai l'impression que mon cerveau, il avait turbiné pendant des heures, alors qu'en fait, en 5 minutes, il m'est sorti des trucs. Et quand je vois ce que tu viens de me dire, je me dis « Ah bah tiens, ça me rassure quand même, il y en a un autre qui fonctionne comme moi. » Mais en fait, on est plein à fonctionner comme ça, on est plein à en avoir à s'inquiéter un petit peu de ça, je pense, etc. Mais en fait, je crois que, et c'est là où on parle des habitudes, je pense que c'est l'habitude de réfléchir de cette manière-là fait que tu dois le sentir que ça devient de plus en plus facile et incroyable à tirer ses fils.
C'est ça, complètement. Et c'est pour ça que j'hésite plus maintenant, je force pas quand ça vient pas, parce que je me suis déjà vu écrire un article une journée entière. Ça venait pas, les formules étaient pas bonnes, j'aimais pas le rythme, j'aime beaucoup le rythme, quand j'écris, il y avait pas de rythme, j'avais du mal à expliquer, j'aime beaucoup parler en images, j'avais que des images compliqué. Et il y a des fois, l'idée te vient, tu dis je vais aller carrément jusqu'à écrire mes grandes parties. Puis les grandes parties, tu dis je pense à mettre ça, et puis ça, et puis ça. Puis en fait, tu te fais un espèce de plan d'article qui fait presque 500 mots, qui fait presque le tiers de ton objectif. Et puis à la fin, quand tu tournes les choses en phrase, tu dis 1500, j'ai tout dit, c'est bon. Il s'est passé une heure, et j'ai écrit un article. Donc maintenant, je force plus parce qu'il y a ces fameux. C'est comme des vagues, si tu veux. Des fois, il n'y a pas de courant, je laisse faire, c'est pas grave. Et quand je sens une vague, je me mets à surfer dessus parce que, et puis si j'ai d'autres trucs à écrire, j'y vais. Et oui, effectivement, l'habitude fait que ton cerveau enclenche facilement le mode production ou le mode planification. Moi, j'ai tellement commencé à réfléchir ma journée dans ma douche que maintenant, je rentre dans ma douche, même le soir si je me suis entraîné, alors que d'habitude, c'est mon rituel du matin. Si je reprends une le soir parce que je me suis entraîné, j'ai le cerveau qui refonce dans sa planif. Je lui dis, hop, c'est bon, j'ai fini, là.
Alors, puisque tu réfléchis dans ta douche, est-ce que tu as trouvé un moyen de noter tes idées quand elles viennent sous la douche? Parce que l'autre jour, j'ai mis une discussion sur Twitter, il y en a qui disaient, ah là, mais à chaque fois, j'ai un truc, et je pense, et certains, ils vont se reconnaître parce qu'ils écoutent le podcast, ils disaient, ah, j'ai une idée, je sors à poil de la douche pour aller noter un bout de code, etc. Est-ce que toi, t'as une méthode?
Non, malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé celle-là, et je t'avoue que j'ose pas trop aller toucher mon téléphone, tu sais, sortir le bras et aller noter un truc. Je me suis beaucoup servi par contre de la douche pour réviser. Je me mettais des petites notes sous fiche plastique, mais j'avoue que pour écrire, c'était compliqué. J'ai toujours pas trouvé cette solution, non, malheureusement.
Ouais, mais on fonctionne un peu pareil. Alors moi, c'était quand j'étais étudiant, c'est vrai que tout me revenait sous la douche. Et quand je prenais ma douche et que le cours revenait, je pouvais y aller un peu sans problème. Et après, je regarderais, mais pour l'anecdote quand même, je dis, ouais, si vous regardez sur Amazon, il existe des ardoises qui se collent dans les douches. Avec lesquels on peut écrire, etc. Et ça existe, hein. Franchement, ça existe. Si on s'amusait à faire une liste de Noël, des cadeaux un petit peu loufoques, ça changerait un petit peu, tu vois, des drones, des micros, des caméras, etc. On pourrait faire une liste comme ça, des trucs qui semblent complètement incroyables, tu vois, mais qui finalement sont vachement utiles.
Ah, mais parfaitement fonctionnels, oui.
On pourrait y ranger, tu vois, une petite ardoise pour mettre aux toilettes quand t'as une idée, tu vois, comme ça aux toilettes aussi, parce que c'est le genre de problème que tout le monde a, tu vois, franchement, tout le monde a. Des fois, on pourrait se dire, est-ce qu'il faudrait pas mettre un sorte de Google Home, tu vois, dans la douche, etc. Tu ferais OK Google, ah pardon, mince, alors j'espère que j'ai pas déclenché les vôtres, OK Google, note cette idée, puis tu me la rappelles dans trois heures, tu vois, enfin, peut-être, mais il existe un moyen très low-tech, hein, vraiment, qui sont des ardoises, comme ça. Ça existe, hein, des petits trucs, ça se colle en plus, tu sais, en plus, je crois que c'est du double face, tu vois, une espèce de truc dans ce genre-là. Donc, on regardera ça, tiens, on mettra ça, si je trouve ça, je mettrai un lien Amazon, vous cliquerez dessus, ça vous fera votre petit cadeau de Noël les uns aux autres, parce que je sais, on est plein à voir ce truc-là. Bon, allez, ça, c'était une petite parenthèse. On va revenir sur mon idée que je voulais aborder tout à l'heure, tu vois, j'ai zappé, mais mon cerveau est parti ailleurs. Comment tu définis finalement ta marque? Alors, on l'a pas dit d'ailleurs, t'as un nom de marque, hein, quand on te suit sur Instagram, sur ton blog aussi, hein, je crois que tout est au même nom maintenant.
C'est ça, tout à fait. C'est Coaching Fruité. Coaching Fruité, j'ai trouvé ça amusant, en fait, je pense comme beaucoup, hein, on l'a tous eu ce dilemme, hein, comment j'appelle mon site. Et je trouvais pas. Et du coup, effectivement, je pense que ça se ressent rapidement, aussi bien sur les réseaux ou quand on me voit dans les séminaires, les petits ateliers. Je suis ultra enthousiaste. Je pense que ça peut même être embêtant des fois. Il faut avoir de l'énergie pour être à côté de moi. J'ai une joie de vivre que j'adore partager en plus. Et le côté fruité, je me dis, mais c'est super positif, je trouve ça marrant. Alors, sans vouloir trop faire le lien non plus, mais je mange pas de viande. Je suis quasiment végétalien, je mange des œufs si tu veux. Mais il y a ce côté un petit peu alternatif sans viande, sans poisson. Et du coup, le côté fruité faisait très végétal, j'aimais beaucoup. Sans trop m'estampiller, j'aime pas trop les étiquettes. Et donc voilà, Coaching Fruité sur Instagram et sur mon site, c'est www.coachingfruité.fr. Comment je définis ma marque, c'est un côté équilibre, si tu veux. Moi, mon curseur dans mon approche, alors ça l'était pour la nutrition, ça l'est maintenant pour vraiment tout, c'est mesurer un peu ce qu'on dit et se laisser un peu vivre. Pour moi, il y a deux mesures. On regarde les chiffres de santé et on se dit, oh là là, on va droit dans la catastrophe là, les pathologies, ça augmente, le diabète, 5e cause de mortalité, on souche des 4 autres du dessus, si on continue comme ça, ça va pas, blablabla. Alors, t'as cette approche là qui t'amène, si t'es un peu brut et un peu à chaud, de dire, ok, faut absolument qu'on dise à tout le monde de manger différemment, on va y aller un peu brut en leur disant, mais attention, là, vous allez droit vers tout ça là, tous ces problèmes là. Mais en même temps, si on fait ça de façon trop brute, sans ménager son discours, on a de grandes chances de tronquer le diabète pour un trouble du comportement alimentaire. Et je crois pas qu'on soit gagnant, tu vois. Donc, mon idée, c'est les deux. C'est, il faut tendre vers le mieux, mais perfectionner dans le sens améliorer, pas viser la perfection d'un coup. Et il faut aussi, on est des êtres humains, hein, on serait un robot, on changerait le programme et point barre, on n'aurait plus de problème, quoi. Et là, il faut prendre toute cette composante et qui est une espèce de multi-composante, parce que tu peux avoir une assiette très bonne, mais être très, très stressé, mal dormir et prendre du poids. Dans ce cas-là, c'est pas l'assiette qu'il faut voir. Donc c'est un peu ça mon approche, du moins ce que j'essaie de véhiculer au maximum. C'est énormément de joie de vivre, toujours, beaucoup d'enthousiasme, voir vraiment le beau et là où on veut aller, plutôt que de rester un petit peu là à regarder la forêt qui brûle, et individualiser, faire vraiment passer ce message que On est tous différents, on est 7 milliards tous différents. Ce qui marche chez l'un ne marchera pas chez l'autre. Donc il faut chercher, si tu veux, il y a comme une sphère perfection nutritionnelle, une sphère plaisir pur. Les deux se rencontrent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver cette petite zone où les deux se rencontrent pour que on tende vers un bien-être total, pas une assiette parfaite qui nous rend triste ou pas un laisser-aller qui nous rend malade. Les deux, ça existe. Et cet espace-là, il est propre à chacun. Donc la mission de tout le monde, c'est de trouver son propre équilibre là-dedans. Et moi, ce que je fais, enfin du moins ce que j'essaie, ce qui me motive en fait, c'est vraiment d'amener tout ce qu'il faut, les petits points de réflexion, les petites infos, etc., pour aider. Et généralement, ce qu'il faut aussi, c'est pas que de l'info, c'est de la mise en pratique.
Oui, parce que c'est souvent le problème d'ailleurs de passer... Alors, tout à l'heure, tu as parlé de la naturopathie. Je l'ai pas dit, mais ma femme suit une formation de naturopathie. Elle est partie pour 3 ans d'études, un week-end sur deux, etc. Et effectivement, ces questions-là reviennent notamment parce que, bon, bien sûr, elle a consulté des naturopathes pour voir un petit peu ce que c'était aussi. Et souvent, la surprise qu'on peut avoir, mais c'est valable avec plein de gens aussi, on peut avoir ce truc-là, c'est que sur l'instant, ils te consultent et puis ils te donnent une liste de choses qu'il y aurait à faire. Grosso modo, des bonnes consignes, etc. Et puis tu te retrouves un petit peu largué à nouveau dans ta vie en fait. T'es replongé dans ta vie et puis t'as ton placard qui t'appelle, tes habitudes qui t'appellent, Netflix qui t'appelle, etc. Enfin t'as tout un tas de trucs qui t'appellent et c'est pas facile d'arriver à dire qu'est-ce que j'enclenche, c'est quoi mon petit déclencheur, etc.
C'est ça. Là pour moi tu mets le point, tu mets vraiment le doigt sur un point super important. On n'a plus besoin d'infos. On n'a plus besoin d'infos. Globalement, on sait comment, on sait vers où aller pour perdre du poids. T'apprendras pas à un fumeur que fumer ça tue. L'info, on l'a. Et c'est pas plus d'infos qui nous aidera. C'est pas en disant comment faire, enfin du moins quoi faire que ça va nous aider. Ce qu'il faut, c'est de la mise en pratique. C'est le côté comment ça se transmet dans le quotidien. Je sais qu'il faut manger un petit peu moins de glucides parce qu'on en mange trop. Je sais que il faut manger des bonnes graisses, qu'il faut trier un petit peu tout ça, qu'il faut manger le plus naturel possible. Ok, mais comment on fait tous les jours? Je sais que faire trop d'écart, c'est pas bien. Que le mot écart, normalement, c'est ponctuel. Comment on fait? Comment on fait pour calmer une pulsion j'ai envie de manger salement. On sait que le paquet de gâteaux, c'est pas ce qu'il nous faut, mais là, sur le coup, on en a envie. Et en fait, c'est ça, c'est de la mise en pratique, gérer ses habitudes. C'est la petite action insignifiante qu'on répète au quotidien qui est derrière les grands résultats de notre vie. Quelqu'un qui veut perdre du poids, qui fait pas de sport et qui est sédentaire, si elle fait sa journée parfaite avec une nutrition au top, elle a pris plaisir à manger tout ce qu'elle a mangé, elle a fait un entraînement dingue, elle se regarde le soir dans le miroir, rien n'a changé. Rien n'a changé. Par contre, on est tous d'accord pour dire que si elle reproduit ça très souvent, elle va vers des résultats. Idem. Moi, c'est ce qui m'aide aussi à faire comprendre aux gens qu'il faut un petit peu se lâcher la grappe. C'est pas parce qu'on a mal mangé une fois et qu'un dimanche, on n'est pas allé faire sa course que c'est la cata, quoi. C'est 99% du temps qui gère nos grands résultats. Et pour moi, c'est vraiment transmettre la science de la motivation et de l'habitude. La motivation, on lui en a trop mis sur le dos. À chaque fois, on croit qu'on manque de motivation. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'habitude. C'est justement faire sans recourir à sa motivation. Toi qui aimes beaucoup les rituels du matin, tu vois bien. Moi, je dis souvent, mon cerveau, il s'allume une heure après moi. Parce qu'en fait, ma première heure, je suis automatisé et je fais des choses incroyables. Il y a beaucoup de gens, on aurait besoin de beaucoup de motivation pour... et faire de la méditation tous les jours, et faire du yoga tous les jours, et faire de la course à pied tous les jours, etc. Toi, ton défi pompe, etc. Se dire, bon, bah là, j'ai le temps de le passer. Non, non, toutes ces questions-là, elles n'arrivent même pas dans ma journée. Je me lève, mon cerveau est encore au lit, je fais tout ce que j'ai à faire, et hop, je me réveille tranquillement après ma routine du matin avec mon café.
Alors là, tu vois, maintenant, j'ai envie de te dire, mais c'est quoi ta routine du matin? Alors, qu'est-ce que tu fais donc pendant cette heure où ton cerveau continue à dormir?
Eh ben, écoute, justement, là, dans ce moment, j'en ai fait un petit article qui sort bientôt sur Yogi Lab. J'aime beaucoup l'échanger parce que il y a une petite contradiction. J'aime beaucoup être dans le moment présent. Et là, je viens de dire que j'étais complètement automatisé. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est automatiser une routine, la laisser profiter un petit peu de tous ses bienfaits, mais y apporter des petites modifications, déjà parce que je suis très curieux et j'adore tester, et de deux, parce que tu regagnes un petit peu en conscience et en présence du moment. Mais en ce moment, je me réveille, je vais me faire un petit café, ma petite cafetière à piston, je me réveille musculairement, tu sais, je descends un peu en squat, j'attends un petit peu que ça vienne, je me déverrouille, et là, je lis pendant 10 à 15 minutes, je mets un petit chrono. Donc en ce moment, j'étudie le yoga, c'est un peu technique, je me retrouve dans ce que tu dis, le matin technique et le soir plutôt récréatif. Parce que sinon, ouais, ton cerveau part et là, c'est fini. C'est fini, tu peux retourner à ton bureau parce que t'es pas prêt de dormir. Et du coup, derrière cette lecture, j'écris. J'adore l'écriture. Je l'aimais avant de tomber amoureux du stoïcisme. Maintenant que j'étudie la philo et le stoïcisme, c'est vraiment un exercice. J'ai plusieurs exos, d'ailleurs, j'ai plusieurs carnets. Et derrière, je pose tout et là, c'est une heure de yoga. J'ai commencé avec 10 minutes et puis j'ai fait grandir la routine et j'avais vraiment envie de profiter des bienfaits de la séance longue. Donc là, c'est une heure de yoga et puis bah derrière, une douche froide. Je fais partie de ces fous furieux de la douche froide. Douche froide et là, c'est parti. Je suis fin prêt.
Oui, alors donc c'est quand même une routine hein, qui pour toi, moi, pour un papa comme moi, une heure de yoga. Bon après je te dis ça, mais d'un autre côté, si je faisais pas mes podcasts, etc., peut-être que j'arriverais à placer une heure de yoga, allez savoir. Parce que effectivement, moi j'ai calculé, j'ai eu 2h30, hein, avant que ma fille se réveille, je suis allé taper un petit peu sur son épaule en disant c'est l'heure de te lever quand même. Mais moi ça faisait 2h30 hein, ce matin 2h30 de tranquillité, c'est à dire que la maison dormait, les gens dehors dorment, voilà, donc il y a pas de voiture qui passe, etc., il y a rien qui sonne et de toute façon mes mails je les regarde qu'à 11h, tu vois, tranquillement. Effectivement hein, dans ce temps qu'on a, c'est un vrai temps qui est d'une qualité rare parce qu'il y a pas d'interruption, ton cerveau il a d'une fraîcheur incroyable, il est disponible pour faire des trucs. Mais on n'imagine même pas. Moi, tu vois, par exemple, la méditation, je pensais toujours que ça m'endormait. Et puis un jour, j'ai dit, bah, quand même, faut que tu testes la méditation le matin, parce que le soir, elle m'endort. Et le matin, je pensais qu'elle m'endormait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est elle qui me permet d'attendre que mon cerveau, il arrive là, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure. C'est là, le cerveau, il arrive, il dit, attends, je fais le tri, je te remonte un truc, tiens, je t'ai remonté ça. Et je sais qu'en fait, mes idées, elles remontent à ce moment-là aussi. Beaucoup mes idées de la nuit, etc. Il y a des trucs qui remontent à ce moment-là. Et j'avais dit souvent, j'étais marqué par un épisode de Bernard Werber, qui est invité dans Génération du 8 Tour Self, où il dit que tous les matins, il note ses rêves. Tu sais, il dit, le soir, il met un truc en route et puis il note ses rêves. Alors, j'en ai fait une blague du 1er avril. Il y a des gens qui se sont demandé si c'était une blague ou pas, mon histoire de message que j'avais fait. Parce que mon épisode de podcast du 1er avril, c'était presque une blague, mais pas tout à fait une blague. Mais en fait, la méditation, elle permet de remonter aussi ces idées-là, de réveiller un petit peu les lectures, effectivement. Alors, je suis d'accord avec toi sur les lectures du soir. Oh, mon Dieu. j'ai arrêté les lectures techniques parce que c'est vrai que c'est pas possible, hein. Il y a au bout d'un moment, on n'y arrive pas. Et puis, à l'inverse, tu sais, les jours quand même où t'es très fatigué, en fait, il y a rien qui rentre. Au bout d'un moment, ton cerveau, il en peut plus non plus. Donc, c'est vrai que c'est pour vraiment le matin. Mais, c'est vrai que c'est un moment. Alors, on n'est pas obligé non plus de faire une heure de yoga tous les matins. Moi, c'est 5-10 minutes, un quart d'heure, tu vois, sur le, tranquillement, mes petites salutations, etc. C'est histoire de déverrouiller, j'arrive pas à le dire, tu vois, mais c'est un très bon terme. Après le running, ça m'aide. Parce que hier, j'avais un cross, et ce matin, j'ai mal aux jambes, et ça m'assouplit, etc. Et d'ailleurs, t'as fait un post hein, sur ce sujet, comme quoi le yoga t'assouplit beaucoup.
Complètement. En fait, c'est assez drôle, mais. Souvent, la question qu'on rencontre très 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 souvent, c'est ben, je peux faire du yoga parce que je suis pas très souple.
Et donc, ça, je l'ai dit plusieurs fois, tu sais, oui, mon truc, hein, c'était mon truc à moi. Hein.
Moi, j'ai signé, ouais, je crois que j'ai coché toutes les cases de, tu sais, de cet élève un petit peu chiant qui les fait toutes. Donc, je l'ai fait ouais, moi aussi. Et j'avoue que pour moi, c'était ben non, tout ça, je peux pas. Mais en fait, c'est le yoga qui me rend souple. C'est le yoga qui me rend souple. Et surtout, c'est beaucoup plus drôle. Franchement, c'est drôle. J'ai écrit dans le Choubrave, un magazine sur la naturopathie et l'hygiénisme. On m'avait demandé d'écrire sur le sport. Et j'ai dit, OK, alors je ne vais pas écrire sur les bienfaits du sport. Je vais écrire sur l'importance de mettre de la joie dans sa pratique sportive. Parce que bah, tu dois le rencontrer. Il y a des gens qui disent, bah, moi, courir, ça m'ennuie. Ben oui, effectivement, on trouve autre chose, parce que courir, ça peut être super fun aussi, quoi. Ça m'étonnerait que tu t'ennuies quand tu cours, toi. Et le but, c'est vraiment ouais, de mettre du fun. Et ben, entre 20 minutes d'assouplissement pour n'importe quelle pratique, hein, que ce soit la course à pied, le crossfit, j'ai fait du crossfit, la gym, etc. C'est un peu tristoun, je trouve. 20 minutes de yoga, c'est vachement plus fun. Moi, ça me le fait beaucoup. je parle beaucoup de ça. Par exemple, tu as énormément de gens qui veulent prendre du muscle. On m'a beaucoup posé la question, la nutrition sur la musculation, etc. Et tu as des programmes de musculation un peu abstraits, un peu bruts, où tu vas dans une salle soulever des poids un peu tout seul avec ta musique, ou tu peux aller faire du crossfit. Complètement décousu, un jour ton épreuve elle dure 10 minutes, un jour elle dure 40 minutes, dans tous les cas à chaque fois c'est shoot d'hormones, t'es heureux comme tout, et en fait tu t'en aperçois pas, mais tu prends du muscle, et ben là c'est pareil, le yoga tu t'en aperçois pas, mais tu deviens très très souple.
Ouais, effectivement, moi je m'en rends compte, hein, tu sais, j'ai commencé au mois d'août tranquillement et tout, il y a des trucs que je n'arrivais pas à faire, hein. Alors toucher mes pieds, etc., c'est des choses qui, mes pieds, je leur trouve des positions. Hier je me suis fait une réflexion, je me suis dit mais attends, t'arrives à faire ça maintenant, c'est un truc incroyable, juste me pencher plus en avant, tu vois, de la souplesse, etc., et on a besoin de souplesse, parce qu'on s'en rend pas compte en fait, qu'on a besoin de souplesse, on est... Tout nous rigidifie. Alors, si vous courez, vous êtes rigidifié par la course. Si vous restez sédentaire, on est rigidifié par sa chaise de bureau, par son canapé, par sa bagnole qui nous rigidifie. Il suffit de le voir, hein, quand on sort de sa voiture, on est tout raide. Après avoir conduit une demi-heure, on sent déjà qu'on est tout engourdi, etc. Tout nous rigidifie. Et c'est vrai qu'on a besoin de rapporter de la souplesse, etc. Que ça fait c'est important, hein, dans la vie, ces trucs-là, quoi.
C'est ça. Ne serait-ce que pour ta posture de tous les jours, tu peux le voir et tu l'améliores énormément en gagnant en mobilité, en souplesse. Et après, ben, c'est ça que je trouve vraiment passionnant avec le corps humain. C'est que tout se diffuse, tout est connecté. Et pour faire souvent, la boucle est assez marrante. Le yoga te permet plus de souplesse, une meilleure posture. Et derrière, une meilleure posture, ça peut être une respiration plus propre. Et une respiration plus propre, c'est tirer beaucoup moins sur le stress ambiant, le stress latent. Et en fin de compte, en fait, t'as une diffusion qui est là sur tout. Si tu respires mieux, tu manges mieux. Si tu respires mieux, tu gères mieux ton stress. Si tu respires mieux, t'es mieux concentré. Tu vois ? Et ouais, je ne peux qu'argumenter en faveur de ce petit gain de souplesse. Et ta séance de yoga de 5, 10, 15 minutes, elle est géniale. Parce que tu as quelque chose dans une séance d'une heure que tu n'auras pas avec une séance d'un quart d'heure. Mais tu as quelque chose avec la pratique quotidienne que tu n'auras pas avec une seule pratique à la semaine. Matcher, mixer les deux, trouver comment faire matcher ce yoga-là avec ton mode de vie, toi qui es jeune papa, effectivement, moi souvent je dis j'ose pas trop parler de routine parce que je me dis ok, pour gérer mon stress, je médite tous les matins et je me dis il y a un jour il y a quelqu'un qui va dire Coco, là, mon gamin, c'est toi qui viens le garder pendant que je médite.
Et oui, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que je t'ai pas demandé finalement à qui tu t'adressais, si t'avais une cible idéale, tu vois, si t'avais des gens qui étaient dans la cible idéale, parce que ça fait partie de choses, hein, j'en ai répété la semaine dernière avec la formation, toi t'avais pris la formation sur les 30 jours de contenu, et c'est l'un des premiers trucs que je dis, quelle est votre cible idéale, à qui vous adressez, etc. Je sais pas si t'as fait cet exercice-là, si t'as défini la personne à qui tu t'adresses, hein, mais elle est fortement différente de plein d'autres personnes, parce qu'on a chacun aussi nos cibles qui viennent aussi de qui on est nous, quoi.
C'est ça. En fait, j'ai plusieurs personas. J'ai une cible qui est, en gros, les curieux du bien-être, ceux qui sont sur la démarche, ceux qui ont déjà entamé la démarche. Alors, ça peut être depuis 2 ans, ça peut être depuis 10 minutes. Mais je m'adresse à ceux qui ont eu le déclic, parce que le déclic, je ne m'occupe plus de le déclencher. C'est une question de timing et c'est pas toi qui le provoquera. Faut que toutes les planètes s'alignent dans la il y a des gens à qui j'ai dit qu'ils étaient dans une situation avec un confort pas top parce que pathologie inflammatoire, etc., et qui mangeaient très inflammatoire. Je dis écoute, il y a 2-3 petites choses que tu pourrais essayer de faire, ça allégerait fortement les choses. Bref, je sentais bien que je parlais un peu dans le vide. Et puis sur le coup, si t'as pas encore appris à te détacher, t'es un peu frustré parce que tu dis mince, je suis vraiment sûr qu'il y a quelque chose à gagner, quoi. Cette personne serait beaucoup mieux. Et donc ça te frustre un peu. Et puis en fin de compte, c'est une personne qui 2 ans après peut te dire, en fait, tu sais, je me suis mis à faire ça et ça et ça, oh, ça va vachement mieux. Et toi, elle t'a redit quasiment mot pour mot ce que tu lui as dit il y a 2 ans. Et là, tu te dis, mais c'est ce que je te dis depuis le début. Mais écoute, c'était pas le temps, c'était pas le moment, c'était pas le timing. Donc ce déclic, je ne m'en occupe plus. Je cherche éventuellement par l'exemple à être un de ces petits dévoyeurs, tu vois. Mais par l'exemple, je n'y mets plus aucun effort, plus aucune attente. Par contre, les gens qui ont ce déclic et qui se mettent sur le chemin du bien-être, là par contre, Elle est là, ma cible. Et au niveau des personas, ça peut être quoi? Ça peut être l'étudiant d'une vingtaine d'années qui a son premier appart et qui se dit, oh, mince, mais en fait, je m'aperçois que depuis que c'est moi qui fais à manger, je mange tout le temps la même chose. Et qui sait très bien qu'il faut aller vers la santé via son assiette, mais qui sait pas comment faire. Ben, lui, par exemple, je vais m'éclater à lui proposer quelque chose. Ça peut être, les personnes qui ont pas beaucoup de temps, tu sais, qui ont un emploi du temps dingue et qui disent ben ok, moi en fait là où faut que je gagne, c'est dans ma petite recette, dans mon tupperware, tout bonnement. J'ai 15 minutes le soir, je prépare mon tube pour le lendemain, c'est là qu'il faut que je gagne, parce que si j'ai la flemme, donc là on va parler méthode, si j'ai pas l'idée, donc là on parle cuisine, je tourne sur du riz d'Inde. Et ben effectivement, au bout d'un moment, le riz d'Inde, d'une, tu vas en avoir ta claque, et de deux, tu vas pas forcément avoir tout ce qu'il te faut.
Ouais, là tu t'adresses vraiment à des muscus, riz d'Inde.
Tu l'as repéré, ouais.
Ah ouais, non, mais là je me suis dit, attends, riz d'Inde, non, pour l'anecdote, parce que si vous suivez un petit peu la muscu, c'est vraiment le truc de la muscu, et c'était la recette, je crois, que Thibaut InShape, à un moment, tu vois, je regardais les vidéos de Thibaut InShape, c'était les boîtes d'œufs et les riz d'Inde.
C'est ça, je crois qu'il a fait une bonne diète de riz d'Inde.
Il parlait que de ça, au bout d'un moment. Tu dis, ah non, attends, je veux pas devenir comme toi, manger du riz d'Inde tout le temps. Y a pas une autre méthode. Et là, on arrive chez Rémi.
Ouais, c'est ça, moi, mon but, c'est de mettre du pratique.
Ouais.
Du pratique. Dans mes petits ateliers cuisine, on voit jamais des recettes à plus de 4 ingrédients et à plus de 10 minutes de prépa. Parce que là, tu vois, un livre de recettes, un beau livre de recettes avec des belles photos, c'est d'ailleurs pour ça que je poste pas de photos, parce que la photographie culinaire, c'est compliqué, je trouve. Et les recettes que je recommande, ben elles sont pas trop photographiables. Parce que tu sais, tu as le beau gâteau, la pile de pancakes énorme, tu sais, tu as tous ces comptes fitness où en fin de compte, tu t'aperçois que dès qu'il y a une recette, c'est blindé de sucre. Il y a un côté un peu incohérence totale. Mes recettes de tous les jours, elles sont pas très belles, quoi. Elles sont pas très belles, mais c'est des choses simples. Et c'est celle-là qui t'aide à être en bonne santé, parce que c'est celle que tu vas manger le midi au boulot. C'est celle que tu vas manger le soir quand, ta fille a du mal à s'endormir ou je sais pas quoi. Puis en fin de compte, ça a duré. Et puis tu t'aperçois que bon, bah, il est tard. Tu te lances pas dans une grande cuisine, mais l'idée, c'est de te dévoyer de la pizza surgelée, tu vois. Et donc, voilà, grosso modo, c'est vraiment là que je me plais, c'est à donner du pratique. J'aime beaucoup que les gens fassent très vite le lien, même sur place quand on est en séminaire, ou dès la lecture de l'article, faire le lien avec la cuisine. Moi, je veux que l'article, il l'ait en tête quand ils sont sur la planche à découper, tu vois. Parce que des bons concepts, oui, il y en a des extras, hein, mais comment ça se convertit dans la vie de tous les jours, tu vois.
Ouais. Ouais, et puis c'est compliqué parce que souvent tu te retrouves à avoir plein d'ingrédients dans tous les sens, etc. Alors moi, nous on mange sans gluten maintenant à la maison. Enfin, on a beaucoup beaucoup diminué les gluten, beaucoup beaucoup diminué le lactose. Mais on n'est pas au stade hein, végétarien, etc. Parce que bon, en plus avec notre fille, ça c'est compliqué parce qu'il faut des produits laitiers, un peu de, elle adore le fromage, etc. Mais l'autre jour, j'ai regardé les farines, je faisais mes recettes avec la farine. J'ai dit, attends, il faut mettre ça, puis ça, puis ça, puis ça. J'ai dit, oh, ouh, ça fait beaucoup d'ingrédients mon histoire quand même. Non. Mais à un moment donné, bon, la cuisine sans gluten, si on peut pas se contenter de remplacer une farine par une autre, ça marche pas comme ça, c'est pas possible, il y a des trucs. Et c'est vrai que moi j'aime bien trouver un moyen assez rapide. L'histoire des photos qui sont pas des recettes pas très photogéniques, bah mon gâteau au chocolat que j'ai posté hier, les photos sont moches, mais je peux vous garantir que le gâteau, il est bon, hein, mais c'est vrai que sur Instagram, il aura pas de succès, ça marche pas. Et mais j'en rigole quand même parce que ma photo qui a le plus de succès, je raconte souvent, c'est ma photo de pois chiche. Tu sais, j'ai mis des pois chiches au four avec du cumin dessus, j'ai mis ça au four, je fais une photo. Et c'est la photo qui a le plus de succès de mon compte Instagram, c'est celle-là. Alors, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi, hein, c'est des questions d'algorithme, etc. Mais c'est aussi un truc, tu vois, qui montre exactement ce que tu expliques, en fait. C'est que si t'as envie d'un apéro, tu peux soit te dire, je prends un paquet de chips ou des cacahuètes. Mais si tu sais que tu peux te faire une boîte de pois chiches exposée façon popcorn avec un peu de cumin, c'est pas si compliqué que ça, et en plus tu vas te régaler, tu vas découvrir un nouveau truc, et puis tu sais, moi il y a le côté aussi, je trouve, quand tu donnes du contenu comme ça, une fois que tu l'as acquis, hein, quand tu découvres un nouveau truc, t'as envie de le partager à d'autres. Alors, attends, tu manges encore des chips toi, mais attends, tu sais que je peux faire ça et tout, et dire waouh, c'est génial et tout, et tu sais, tu donnes un super pouvoir aux gens qui te lisent, en fait. C'est ça qui est génial en plus.
Ah, totalement. Et tu vois, ça, cette envie de partager le truc dingue que tu viens de vivre, en fait, c'est la racine de tout ce que je fais aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'étais obèse. J'ai coché toutes les mauvaises cases. Je mangeais très mal, donc généralement je suis très bien placé pour parler à mes clients parce que je leur dis, vous inquiétez pas, ça je connais, ça je connais, ça je connais. L'hyperphagie, manger pour le stress, tout ça, j'ai coché toutes ces cases. Et en fait, c'est ça qui a vraiment été le grand déclencheur, c'est que j'avais jamais vraiment, si tu veux, mon bien-être, mon corps, alors mon bien-être physique, mon bien-être psychologique, tout ça, c'était complètement hors champ. C'était hors champ de tout ce que je faisais. J'étais très épicurien, tu sais. J'aimais bien la bonne bouffe. J'aimais bien. Ça allait pas plus loin que le palais, si tu veux. Et puis, ben, avec un enchaînement de circonstances dingues, je me mets à perdre du poids. Et je me mets, en voyant à perdre du poids et surtout en me sentant mieux, à me dire, bah, je vais continuer, je vais le faire de façon plus intentionnelle, tout ça. Et j'ai commencé à mettre mon corps et mon bien-être vraiment au centre de mes préoccupations, de mon temps, etc. Et là, je me suis dit, ok, c'est fou, c'est dingue. Je ne savais pas que c'était possible, que c'était ça qui nous attendait. Et je me sentais vraiment mieux, j'avais énormément de confiance. Je suis passé de timide maladif à « je veux voir et parler à tout le monde ». Je vais changer des idées dingues. Et en fait, bah, ça a été fou. Et ça, je me suis dit « ok, il faut que je le partage ». Tu sais, j'avais l'impression qu'on était tous là à essayer de monter un escalier assez complexe. Et je venais de réussir à trouver le moyen de monter la marche du dessus. Oh, j'avais qu'une envie, c'était me retourner faire les copains, je vous montre. Et donc c'est ça à la base. Et effectivement, tu peux très facilement remplacer toutes les petites choses du quotidien par des alternatives plus saines et pas forcément. Tu sais, des fois les gens se disent, bah faut se faire plaisir. Et ça, derrière cette idée-là, il y a le côté faire un écart obligatoirement. Non, si tu creuses un peu, tu peux t'apercevoir qu'il y a des alternatives qui sont super plaisantes. Et je doute pas une seule seconde de ta fournée de pois chiches façon popcorn.
Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça s'applique à plein de domaines, hein, cette histoire-là. Le fait que tu as monté une marche et puis tu as dit envie, bah, regardez ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent, et là on parle de nutrition, on parle de yoga, on parle de... Mais ça s'applique à n'importe quel domaine. C'est-à-dire que si un jour vous jouez de la guitare ou de la trompette et que vous découvrez que d'un coup... Vous étiez bloqué depuis 2 ans pour jouer un morceau et que d'un coup vous trouvez le truc qui fait que vous êtes capable de jouer un morceau et que vous avez trouvé l'astuce qui vous permet de progresser tout d'un coup mais d'un pas incroyable. Il y a plein de gens qui sont intéressés par cette histoire-là. Donc là-dessus, vous avez un truc à raconter et c'est là où on devient un guide un peu par la force des choses du moment où on décide de le partager parce que on pourrait garder pour soi le truc en disant oh, attends. Maintenant, moi, je sais jouer ça, etc. Je te laisse dans ton truc, etc. Tu vois. Mais en fait, le simple fait de le partager, tout d'un coup, t'ouvre des nouvelles portes parce qu'il y a des gens qui disent, oh, voilà, attends, et ton truc, ça m'intéresse. Tu peux pas m'en dire plus, etc. Et c'est là aussi où, dans la création de contenu, hein, parce que c'est quand même notre sujet principal du jour, même si on n'a pas l'air comme ça, c'est on est quand même sur un espace où tout d'un coup, tu ouvres une porte en disant, bah attends, ça t'intéresse. Ah bah tiens, regarde, j'ai un autre truc pour toi. Et puis un autre truc. Et puis un autre truc. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte, t'as des gens qui te disent, bah attends, ça m'intéresse, mais je suis prêt à te payer, moi, pour que tu m'aides à faire ça. Je suis prêt à faire des stages. T'as pas un petit bouquin? T'as pas une vidéo? T'as pas des trucs comme ça? Ou, tiens, t'as pas des programmes recommandés? On peut faire de l'affiliation. On fera bientôt un épisode sur l'affiliation, d'ailleurs. Parce que, mais j'en reparlerai ça un autre jour. Mais, l'affiliation, par exemple, je pense à tous ceux qui sont dans la domotique, qui décorent, pardon. Excusez-moi, celui de la domotique, qui font clignoter leur maison. Enfin, non, pardon, vous faites pas clignoter votre maison. Vous allumez les lumières en parlant à votre box connectée, et c'est vachement intéressant. Mais il y a plein de gens qui se retrouvent bloqués avec un logiciel et qui d'un coup disent, comment tu fais? Eh ben, tu mets un petit peu de matériel, un lien d'affiliation, ça peut te permettre de payer ton matériel, juste en faisant du contenu, du podcast, des choses comme ça. J'ai parlé du cas de la musique, on pourrait parler du cas de la cuisine, du sport, de plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est un très bon exemple, parce que tu montres que finalement... tu pars d'un point où tu sais pas que ça existe, à un point où finalement tu deviens un guide pour les gens qui trouvent que t'es inspirant. Et c'est là aussi où je dis, tu sais, il faut faire du contenu inspirant, éducatif, distrayant aussi. Alors toi, tu coches toutes les cases, hein. Là vraiment, dans le côté, il y a les côtés inspirants, il y a le côté éducatif, il y a le côté sympathique, etc., distrayant et autres, hein, ne serait-ce que par le nom. Et c'est là où on voit aussi, tu vois, les recettes. C'est pour ça que je voulais t'avoir avec moi, parce que c'est vraiment super intéressant. Et puis, vous voyez, ça nous change aussi un peu. Tu sais, tu parlais des gros comptes fitness, etc., des fois et autres. Il y a des fois, quand on gratte un peu ces comptes, c'est ils sont pas si alignés, tu vois ce que je veux dire?
Complètement, complètement.
Voilà, alors que toi, on sent l'alignement, en fait. Tu vois, c'est ce qui est intéressant, c'est l'alignement. Est-ce que les gens ressentent l'alignement? Il y a des comptes, on sent pas l'alignement. Et puis, il y a des gens, on ressent l'alignement. Et ce qui est... Je pense qu'il est intéressant, c'est que toi, tu arrives à faire ressentir cet alignement, mais parce que tu l'es.
C'est ça, en fait, mon but, c'est de partager ce que je fais, en fait. Donc forcément, il y a ce côté alignement. J'essaye en fait de mettre la méthode pour diffuser de façon efficace le contenu. Ça, tu vois, c'est quelque chose que je savais pas du tout faire avant, que j'apprends à faire, que j'ai énormément appris avec ta formation en fait. C'est comment on fait pour le... Comment on met en forme tout ça. Mais le moteur, c'était vraiment, ben, regardez ce que je fais. Moi, je m'amuse beaucoup. Essayez. Il y a un côté un peu, j'ai un peu l'impression qu'on est tous dans un espèce de grand café et qu'on peut s'adresser un petit peu à tout le monde, tu sais, avec la blogosphère. Et du coup, tu dis, ah, j'ai fait ça aujourd'hui, tu sais, comme quelqu'un ou comme à une soirée quand tu viens raconter le dernier film que t'as vu et qui t'a fait plaisir et t'essaies de passer un petit peu l'excitation que ça t'a, dans laquelle ça t'a mise à tout le monde autour de toi. Mais c'est un petit peu ça, mais en fait avec des choses un peu plus profondes et plus complètes en fait. Et j'aime beaucoup. Mais oui, moi concrètement le compte fitness, tu sais, du je suis végan, je pèse 80 kilos de muscle, je te montre comment faire. Je me rends compte qu'en fait le mec il est végan depuis hier et que son ces 80 kilos de muscle il les a fait aux stéroïdes. Tu te dis ok d'accord, mais là t'es un peu en train de tromper tous les gens qui veulent s'y mettre et te ressembler donc.
Et ouais. Et puis alors en plus on sait qu'il y a eu l'histoire, tu sais, la blogueuse végane qui mangeait du poisson parce qu'elle était malade. Sinon ça en plus ça vante pas hein, ces trucs. Là, quand on va dans certains domaines, ça mérite de creuser. Et c'est là où ils ont une responsabilité, je pense. Ils se rendent pas compte, certains, hein, que. Mais si tu coupes toutes certaines sources qui sont dans la viande, qui sont dans les laitages, etc., il faut quand même les compenser par ton alimentation. Et ça s'invente pas tant que ça. Hein. Donc, on peut avoir des déclencheurs. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu as dit sur le déclencheur. Et je l'ai dit il y a pas longtemps en coaching. Tu sais, j'ai dit aux gens. C'est pas la peine d'essayer de faire changer de comportement aux gens parce que des fois c'est peine perdue. Enfin, tu vois, tu passes une énergie qui est incroyable et pour moi c'est la société qui va le faire à ta place. Tu vois, c'est la société. Elle a un espèce de mouvement, tu sais, qui t'amène vers quelque chose. Et il y a plein de gens, tu vois, on pourrait dire sur l'écologie, etc. Si tu te bats comme Greta Thunberg pour essayer de faire changer les comportements écolos, c'est quand même super compliqué. C'est tout seul, tu vois, dans son truc avec ton petit panneau, tu peux pas y arriver. Dire aux gens, écoutez, maintenant vous mangez mieux, etc. Enfin. C'est pas possible. Alors que les cueillir, tu vois, juste au moment où ils ont dit « Ah, là, je sens qu'il y a un truc à faire et je veux creuser plus », effectivement, pour nous, petits créateurs de contenu, c'est le moment où on peut le faire parce que on n'a pas besoin de démultiplier une énergie qu'on ne peut pas faire, tu vois, qui est trop importante. L'autre jour, je prenais l'image sur Montessori, vous connaissez tous la Montessori, et je disais « Maria Montessori, elle a fait un travail incroyable, c'est de dire « Voici la pédagogie Montessori, voici comment vos enfants, on peut les aider à grandir ». Mais elle a fait le boulot, elle. Mais non, vous n'avez pas besoin de convaincre de faire du Montessori. Vous n'avez pas, enfin, vous pouvez pas convaincre, vous n'avez pas besoin de faire convaincre sur les bienfaits de Montessori, etc. Oui, mais surtout, c'est comment on l'applique. Tu vois, c'est ce que t'expliques. C'est, vous êtes convaincu qu'il faut bien manger. Bon, bah, vous savez pas l'appliquer, moi, je suis là. Et on peut l'appliquer à tous les domaines, à tous les domaines. Et en plus, on se fatigue beaucoup moins, soyons clairs. Hein. On se fatigue beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Et parce que on a moins d'énergie à déployer pour arriver à faire ce genre de truc. Sinon, on dépense une énergie pour arriver à faire une prise de conscience. Et puis finalement, c'est tu sais même pas ce qui se passe derrière. De toute façon, c'est trop compliqué. Comme tu dis, ça peut passer des années là-dessus.
Complètement. Généralement, quand on parle de transition alimentaire, par exemple, on table sur 3 ans. Et ça peut paraître dingue, mais effectivement, quand je réfléchis, à partir du moment où je me suis dit « Ok, je vais me mettre à mieux manger », et le moment où je suis arrivé vraiment à une diète stable parce que j'avais essayé des trucs, alors il y a des choses qui avaient fonctionné, d'autres ben pas top, alors je les avais enlevées, puis j'avais commencé… Pour moi, mieux manger, c'est autant dans l'assiette que de temps en temps sur son PC aller chercher des bonnes infos, tu vois. Et bah le temps de faire tout ça, de trier l'info, d'avoir accès, de trouver, tu sais, des fois ça va vite, tu débloques une source d'info, tu dis j'aime bien ce qu'il dit, c'est sourcé, je sais que il m'emmène vers quelque chose qui est pas à des fins commerciales mais vraiment à des fins d'information. Ok, je prends cette source, je commence à explorer un petit peu. Pareil, hein, quand je t'ai découvert, j'ai mis un temps fou à aller au bout de tout ce que tu proposais parce que ben justement je me suis dit ok, j'aime bien comment il le dit, j'aime bien ce qu'il dit, je me lance. Et là, bah, je tournais, j'épluchais tes podcasts, j'ai pris le dernier publié, c'était pendant les vacances, et hop, je suis remonté.
Ah, mais le problème, c'est que t'es tombé à l'épisode 400 quelque chose.
C'est ça.
Et oui, ça fait beaucoup à rattraper, hein. Il y a une centaine d'heures, hein, je crois, au global.
Ah bah, tu as fait partie de mes routines. Tu as fait partie de mes routines. J'avais ma routine de podcast pendant un moment, quand justement je commençais à revoir un petit peu ma copie sur comment je proposais mon offre, etc. Je me suis retrouvé un petit boulot, et du coup, je commence à 6h du mat. Donc à 5h30, je sortais de chez moi, j'avais une petite demi-heure de marche, j'adore marcher. Et ben, c'était une demi-heure de podcast. Du coup, en plus, tu mettais la pêche avec tes intros le matin, j'étais à fond.
Ah, mais c'est le but, hein. Et alors, les gens, en plus, je le vois dans les commentaires, je le vois dans les messages qui me disent ça, me disent, ah, ça met la pêche, etc. et tout. Mais c'est le but, hein, vraiment, de partager ça. Parce que on en a besoin. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu, ce matin, je refaisais ma petite bio pour mettre dans mes vidéos Instagram. Et ce que je rappelle, c'est qu'à une époque, le dimanche soir, j'avais le ventre qui tortillait, j'étais pas bien, etc. Le lundi matin, j'avais pas envie d'y aller. Le mardi, j'avais pas envie d'y aller. Le mercredi, etc. Et je me dis, il y a des gens, tu vois, ils cherchent la clé pour dire, je veux sortir de ça. Mais tu sors de ça, en fait, aussi, en gardant ta tête, tu te dis, allez, je suis prêt à pas tout casser, tu vois, mais j'ai besoin d'un coup de main, mais j'ai besoin aussi, tu vois, de la mentalité. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans les notes de l'épisode, tu vois, j'ai marqué mindset, tu vois, sur l'état d'esprit, sur comment on déclenche ça. Et comme tu dis, et c'est intéressant ce que tu as dit sur la motivation, hein, sur la motivation, elle s'épuise à une vitesse, mais c'est incroyable, quoi. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas, moi, combien de temps la motivation est dure. Des fois, tu vois, moi, quand je regarde au 1er janvier, parce que je vous rappelle quand même les gens qu'on est au 1er janvier que dans moins de 30 jours maintenant, des fois, la motivation, elle dépasse pas le 2 janvier, hein, pour certains. Donc, et c'est d'ailleurs ce que je dis, hein, on va anticiper, tiens, d'ailleurs. Allez, j'ai quelqu'un qui te dit, tiens, j'aimerais bien prendre une nouvelle habitude, ça peut être créatif, sportif, spirituel ou n'importe quoi. À partir du 1er janvier, tu dirais quoi là comme ça? Alors, comment on s'y met?
Déjà, déjà on rigole ensemble un petit peu sur le 1er janvier, ça détend et on voit que ça fait clairement apparaître ce qu'il faut pas faire. Je dis souvent aux gens, quand vous êtes dans une salle de sport à l'année, vous devez détester le 1er janvier parce que c'est un peu comme quand t'habites dans une belle ville en bord de mer. Entre juin et septembre, c'est bondé, tu peux plus aller à tes commerces tranquillement, mais ça finit par passer. Bah là c'est pareil, généralement vous inquiétez pas, généralement au 15 janvier, vous commencez déjà à être plus tranquille, vous avez vos poids quand vous voulez, pas besoin d'attendre. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on croit que la motivation est la seule énergie pour fueler un petit peu cet objectif. Et on pose l'objectif, on se dit, allez, c'est parti, je me redresse les manches là, c'est parti, j'y vais. Et non, ça s'épuise. Le truc, c'est de tout de suite convertir notre objectif en petite habitude au quotidien. Et là, on évite tout. On se sert pas de la motivation. On s'en sert un petit peu au début parce que faut la créer cette habitude, mais on la crée suffisamment petite pour qu'elle soit inratable. Ouais. Et comme ça, elle devient très rapidement automatisée. Et puis on la construit. Un coup que c'est automatisé, on se resserre de cette petite portion, de cette brique élémentaire de motivation pour rajouter un truc. Dans un article, j'en parle, là, il part bientôt, c'est comment créer une habitude de zéro. Écoute, il sera parfaitement, parfaitement dans le thème. J'explique un roman, on tape sur à peu près 140 pages pour commencer à parler de roman. Eh bien, si tu commences à lire 3 pages par jour, c'est un petit effort, mais on va pas se mentir, c'est pas grand-chose non plus, quoi. Tu vas éteindre ta lampe de chevet, tu t'aperçois que t'as oublié de le faire. Tu peux encore lire tes 3 pages en vitesse et puis le fermer. La plupart du temps, vu que c'est peu, tu feras même plus. Mais on va dire que ta case, tu la coches quand tu lis tes 3 pages. Un coup que c'est bon, c'est une habitude, ben tu rajoutes un petit peu de... Tu investis un petit peu de motivation, mais dans une brique élémentaire, vraiment tout petit. T'en mets 4, puis t'en mets 5, puis t'en mets 6. Et tu fais ça, alors ça va mettre longtemps. Les gens me disent, mais Rémi, mon bouquin, je l'ai pas fini, 3 pages par 3 pages. Ben, mathématiquement, si, d'une part. Parce que si tu te lances et tu te dis, bah, allez, le soir, je me fais 20 minutes, je mets de la musique, un thé, je lis. Bah, au bout de 2 semaines, tu le fais plus. Donc ton livre, tu le finis plus. Ça part d'un projet dingue et tu le finis plus. Là, tu rajoutes un tout petit peu. Et ben, si tu lis, par exemple, 15 pages par jour, ben, en 10 jours, t'as bouffé ton roman.
Bah oui.
Mais commence pas les 15 d'un coup. Vas-y, tout doux. Et puis, joue avec ce micro-investissement de motivation, celui que tu peux faire qu'importe les circonstances. Et du coup, c'est ça. Quelqu'un qui me dit, je veux mettre quelque chose en place et tout, 1er janvier, pourquoi pas, hein, t'as pas besoin d'attendre un lundi, un début de mois, un début d'année. Mais à la rigueur, profitons de cet engouement. Faut pas non plus être anti-résolution. On profite de l'engouement. Ça va être une source de motivation un peu gratuite, tu vois. Et puis même un côté un peu challenging, du genre je serai là à faire le coq fin janvier quand j'y serai toujours, tu vois. Mais par contre, mettons-y un peu de méthode. Moi, ce que je dis souvent, c'est faut regarder comment le cerveau fonctionne et adapter une méthode plutôt que de trouver une méthode qui a l'air belle sur le papier mais qui en fin de compte va aller à l'encontre du cerveau. J'aime beaucoup cette métaphore du cavalier sur l'éléphant. le cavalier veut aller à un endroit, l'éléphant il avait une touffe d'herbe dans la direction opposée, bah crois-moi que même s'il termine à l'endroit où le cavalier voulait aller, l'éléphant il aurait sa touffe d'herbe. Et c'est un peu ça, conscient, inconscient, cerveau, volonté. Du coup, l'idée, c'est plutôt de... C'est comme si je t'envoyais faire le plein de ma voiture sans t'avoir dit à quoi elle fonctionnait, quoi. Cette petite méthode, ce petit outil, un coup qu'on y a vraiment cru, parce qu'au début, on se dit, ouais, mais non, c'est pas possible. 3 pages par jour, c'est mort. Ben si, un coup qu'on y a vraiment cru, qu'on le fait vraiment avec la bonne conviction, on y va. Donc, 1er janvier, ce que vous voulez, tant que ça peut se découper en petite habitude au quotidien.
Ouais, mais tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai procédé pour les pompes. Alors, pour l'anecdote, quand même, mon défi pompe, il vient d'un auditeur qui s'appelle Nico Réagi, il se reconnaîtra, bien sûr, que je dis, qu'est-ce que je fais comme défi pour mes 43 ans? Il me dit, bah, t'as qu'à faire 43 000 pompes. Ouais, alors, tu sais, je fais mes calculs, 43 000 divisé par 305, 117 pompes par jour, j'ai dit, putain, ça me paraît grosse histoire quand même, tu vois. Et j'ai dit, bon, on va faire un truc, on va commencer par en faire le maximum possible, et j'ai commencé le premier jour par un truc qui, pour moi, est simple, c'était de faire 10 pompes, hein, tout simplement. J'ai dit, bah, tiens, j'en fais 10. Et puis, tous les jours, je vais ajouter un petit pourcentage. Tu vois, comme en running, tu sais, en running, on dit, il faut ajouter 5% aux distances au fur et à mesure, etc. Et donc, j'ajoute un petit pourcentage qui était faible. Alors, au début, j'ai ajouté le pourcentage tous les jours, hein, parce que sinon, je me suis dit, arriver à 117, ça va être un petit peu galère. Et donc, après, j'ai stabilisé, donc j'ai dit, je vais en faire 10, puis 11, 12, 13, tu vois, comme ça. Mais 10 pompes, et pour les gens qui savent pas, hein, quand même, 10 pompes, ça vous prend 10 secondes, hein, grosso modo. Vous faites une pause au bout de 5 si vous n'y arrivez pas, etc. Mais ça prend, vraiment, franchement, à n'importe quel moment, c'est très rapide. Et donc, ce que j'ai fait comme ça, et maintenant, en fait, je stabilise, tu vois, je fais 10, après j'ai fait 20, puis 30, etc. Maintenant, je suis à 70, et en fait, tu sais, j'ai des méthodes, en fait. Je me dis, allez, j'en fais 50 d'un coup, plus 20, et quand j'arrive à faire 70 d'un coup, hop. Si j'arrive à faire 70 d'un coup pendant 7 jours, putain, hop, tu sais, je monte. Mais il est certain qu'il y a 2 mois, quand j'ai commencé, je pouvais pas faire 70 pompes. J'en faisais pas 50, j'en faisais pas 20. Je crois que le premier jour, j'en fais à peine 20, tu vois, dans la première fois que j'en fais 20, c'est, j'en peux plus, quoi. Et pourtant, je suis sportif, tu vois, quand même. Il y a des trucs, quand même, tu te dis, mais quand ça n'a pas l'habitude de travailler, ça n'a pas l'habitude de travailler. Et donc, cette méthode-là, moi, c'est celle que j'applique aussi. C'est celle des petits pas, les habitudes de, l'effet cumulé, les choses comme ça, hein, c'est que ça paraît pas, mais en faisant... j'avais mis un jour dans une newsletter où j'avais dit, si tu écris un bouquin qui fait 300 pages, si tu écris une page par jour, à la fin de l'année, t'as ton bouquin. Quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il se passe, alors ça veut pas dire que ce sera un superbe roman ou quoi que ce soit, ça veut peut-être pas dire que t'auras réussi à publier ton bouquin, mais en tout cas, t'auras fait le volume de travail qu'il faudra pour y arriver. Et donc ça, c'est ça aussi la partie habitude, etc. On peut l'appliquer à l'alimentation, on peut l'appliquer au yoga, comme on disait tout à l'heure, on peut l'appliquer au podcast. Moi, je l'applique sur la vidéo, là. Ça y est, je suis parti dans mon mois où je fais de la vidéo tous les jours, etc., pour me relancer un petit peu sur le sujet. On peut l'appliquer à tout un tas de choses. J'ai une anecdote que je raconte très, très souvent. Tu sais, moi, j'étais à une époque webmaster d'un club de foot qui s'appelle Clermont Foot, qui jouait en Ligue 2 à l'époque, et qui joue toujours en Ligue 2. Et un jour, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il s'appelle Bijota, ancien international, et le premier truc qu'il leur fait faire, le premier jour, il donne des ballons aux joueurs, il leur fait faire des passes. Mais tu sais, l'entraînement que des gamins de 7 ans apprennent à faire. Et donc, il y a les journalistes, ils disent, putain, le mec, il a beau avoir été international, c'est pas une flèche. Hein. On avait des mecs qui sont payés des milliers d'euros par mois, et il leur donne un ballon, il leur fait faire des passes. Et à la fin, il y a un journaliste, tu sais, qui leur dit, mais pourquoi vous avez fait faire pendant une heure des passes? Et il a dit, vous avez vu? Est-ce qu'ils sont capables de se faire des passes précisément, etc. Est-ce que le ballon, il arrive dans les pieds du mec qui est 3 mètres en face, etc. Et il y en a, il dit, bah, j'ai pas l'impression que ça arrive tout le temps. Il dit, bah oui, c'est ça qu'on appelle faire des gammes. C'est-à-dire que si tu veux qu'en plein match, t'arrives à faire une passe loin, il faut déjà que t'arrives à l'entraînement à la faire tous les jours, fermer les yeux, être capable de la faire, etc. C'est ça ton histoire de cerveau, tu sais, de dire à un moment donné, mon cerveau, il a pas besoin d'être là pour faire une passe, etc. Il a besoin d'être là aussi que pour les trucs qui demandent vraiment de réfléchir beaucoup plus, etc. Et la routine, c'est sûr, il y a quelqu'un un jour qui me dit, ouais, la routine, c'est quand même un mot qui est vachement péjoratif. Je sais pas ce que tu dis, tiens, quelqu'un qui dit ça, tu dis quoi, toi?
Bah, c'est vrai que en anglais et en français, c'est un peu différent, tu sais. Je trouve qu'il va être super positif en anglais, par exemple, ouais. Parce qu'il va y avoir le côté un peu rituel, c'est quelque chose qui t'apporte du plus dans l'idée. Effectivement, la routine, souvent, c'est le côté un peu barbant, un peu linéaire, un peu ouais, c'est pas glamour, quoi. Effectivement, ouais. Derrière, ce qu'il faut, c'est changer sa perception du mot, ou du moins se passer du mot éventuellement, mais trouver la bonne image, parce que au final, c'est peut-être un truc qu'on devrait tous avoir, du moins. Alors après, elle peut faire 20 minutes, elle peut faire une heure, elle peut faire, mais là, pour moi, c'est vraiment le labo du chimiste, la routine, en fait.
Ouais. Allez, maintenant on va terminer un petit peu sur l'état d'esprit, etc. Sur, tiens, tu sais, j'ai mis dans les notes, est-ce que t'as des habitudes, par exemple, un petit truc quand tu commences à écrire un billet de blog ou quoi que ce soit? Alors, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais par quoi tu commences?
De plus en plus, je commence par du bullet point, tu sais, du point par point, c'est une liste à plus. Je dégrossis, j'ai mes grandes parties. Derrière, je me dis, ok, dans cette grande partie, il faut que je commence là parce que je suis obligé. En fait, l'idée avec la vulgarisation, c'est toujours se dire, mais jusqu'où je déconstruis les choses pour les expliquer? Parce que c'est pas évident. Toi qui as le sujet dans les mains tous les jours, tu te dis, bon, bah, ce mot-là, c'est bon, je le décris pas et puis je passe à la suite. Ah non, des fois, ça mériterait presque deux paragraphes, quoi. Du coup, je me dis, ok, quel est mon point de départ? Hop, je vais jusque là. Et en fait, après, j'ai donc mes grandes parties, mes grandes sous-parties. Après, j'ai mes petites sous-parties, mes petites parties des sous-parties. Et puis, au final, j'ai des points que je n'ai plus qu'à transformer en phrases.
C'est un très bon moyen de travailler comme ça. Moi, je le fais par le biais du mind mapping, comme ça. En fait, après, chaque point devient une phrase, finalement, ou un petit paragraphe, etc. On arrive à creuser. Je sais quand même que pour certains, et je le dis, parce que cette méthode-là, elle a quand même une caractéristique, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par découper. Et il faut apprendre, à un moment donné, à se dire, si je dois beaucoup découper, peut-être que je peux en faire un autre contenu un jour. Rappelez-vous, nous sommes sur Internet. Le lien, c'est la magie du lien. C'est, on peut dire, attends, ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Je ferai un épisode là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai un podcast. Je ferai une photo. Enfin, n'importe quoi. Mais on peut redécouper, quand même. On a le droit de redécouper. On n'est pas obligé de réexpliquer tout le temps, etc. Et souvent on a du mal, tu vois, à bloquer ces trucs-là. Mais je crois que ça vient de ça. Et c'est vrai qu'il faut arriver à un bout d'un moment à se dire, bon, stop, hein.
C'est ça, surtout que je trouve qu'on peut très facilement compléter aujourd'hui le contenu qu'on offre avec des espèces de sous-contenus qui vont être dans les réseaux sociaux, dans un groupe Facebook, au final, moi je sais que je complète souvent, je fais des espèces de petits compléments d'articles avec des posts sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup, je suis un peu maniaque, j'aime beaucoup dans mon feed avoir vraiment une belle structure, et j'ai un post qui est réservé vraiment au côté un peu technique où je vais vulgariser quelque chose, et j'aime bien que ça soit le prolongement d'un article, parce que du coup des fois c'est un exemple que je me suis pas autorisé à insérer dans mon article, parce qu'à un moment donné il faut que ça ait une fin. Et du coup ça me permet d'aller un petit peu plus dans le concret, et généralement ça peut aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire que ben les gens voient le post, ils disent, ah, c'est vrai que ça me parle ça, et derrière il y a l'article qui est relié, quoi.
Alors t'as bien fait de me le dire, j'ai pas remarqué à quel point tu étais maniaque dans ton flou. Alors vous irez voir quand même Coaching Fruité tout attaché, c'est beau, hein, c'est un joli damier, etc. Comment tu planifies ça?
Eh ben écoute, j'ai un outil très chouette, en fait, c'est très basique, hein. Je l'ai volé à Tiffen, je l'avoue. En fait, je me fais un Excel. Et donc j'ai toutes mes lignes, j'ai tous mes jours sur la première colonne, et derrière je mets un fond de couleurs différentes. Donc j'ai mes fonds blancs pour mes photos, j'ai mes fonds bleus parce que souvent c'est une citation, j'essaie d'amener quelque chose d'un peu plus philo, et mes fonds orange où là c'est du contenu technique. Et après, ben tu vois, en début de mois je me dis, ok, ben je vais parler de ça. À côté, j'ai par semaine mes sorties sur mon site, mes sorties sur YogiLab, mes sorties sur d'autres sites quand je fais quelques petites sorties, quelques petites apparitions ici et là. Et du coup, ça me permet de relier, de mettre un contexte, etc. Et donc, j'ai plus qu'à.
Ouais, non, mais vous verrez, c'est super organisé avec les codes couleurs, les photos, l'organisation des photos, etc. Pour ceux qui sont pas fans d'Excel, vous pouvez le faire aussi sur Planoly. Planoly, c'est un outil de planification. Et dedans, en fait, il permet de créer des images, mais où tu mets un titre, tu vois, comme ça, et tu peux remplacer. Et ensuite, tu fais des inversions d'images. Et puis, moi, il y a une méthode que j'utilisais, c'est le post-it. Hein, tu sais, des post-it de couleur. Tout simplement, tu colles ta grille en post-it, tu déplaces les post-it, etc. Tu dis ça, c'est telle couleur, dessus, tu marques le nom. Alors, ça fait dépenser un poil de papier, peut-être, mais c'est une technique qui marche. Moi, dans mon bullet journal, à une époque, j'avais des post-it qui étaient collés, comme ça, qui matérialisaient ma grille. Alors maintenant, je le fais par Planoly, mais voilà, vous voyez, comme quoi derrière, il y a chacun son petit truc pour arriver au résultat, mais vous verrez le résultat quand même. En fait, c'est chouette. Quand on arrive sur la grille comme ça, mais tu vois, moi, je te connaissais avant, j'ai pas fait gaffe qu'elle était comme ça. J'ai dit, tiens, il faut que j'aille voir pendant qu'on discutait. Là, je regardais un truc. Je dis, tiens, elle est quand même sacrément alignée. Et moi qui essaye de le faire sur le compte de votre coach web, sur le compte Instagram de votre coach web, C'est impossible que je le fasse sur mon compte perso, je le dis, hein, j'arrive pas. Mais sur votre coach web, j'arrive à le faire parce que le contenu, il est plus planifié à l'avance, tu vois, et tout. Et je trouvais ça qui était assez intéressant. Bon, les habitudes sportives, on en a un petit peu parlé quand même dans cette histoire-là, hein, de des routines, etc. Est-ce qu'il y a quand même un truc, tu sais, tu te dis, je peux pas faire ma journée sans avoir fait ça, tu vois, le truc qui te manquerait vraiment, ou tu sais que c'est vraiment... pas vital, mais ouais, vital, on va dire. Allez,
eh bien, j'en ai pas qu'un. Je dirais qu'une journée où j'ai pas écrit, ça me va pas.
Ouais,
je me sens pas bien. Une journée où j'ai pas médité, je sens que c'est un peu le boxon là-haut. Je pense que ouais, c'est vraiment mes deux. Je peux me passer de ma douche froide parce que c'est un moment de plaisir. Hein. Attention, c'est pas un moment de torture que j'aime m'infliger tous les jours comme ça. Après, ben j'ai été contraint de m'arrêter au niveau du sport pendant quelques mois. Je pensais que ça allait être dur. Au final, tu vois, ça a été. Non, je dirais vraiment écriture et méditation parce que ben c'est ce qui m'aide à vraiment trier. J'aime beaucoup analyser les choses et donc ça me permet de m'analyser. C'est vraiment chouette. Si tu veux. Pour mon corps, je prends ma douche. Pour ma tête, je médite.
D'accord. Voilà. Une bonne. Et puis, je vous rappelle que les deux sont liés, hein, de toute façon. Et toi qui t'intéresses beaucoup à la philosophie, hein, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé un peu de stoïcisme. Je t'ai demandé des conseils de lecture l'autre jour. J'ai commencé à lire Épictète. Hein. Ah. Mais tu vois, il ne faut pas que je lise le soir parce que. Il y a un truc qui cloche après. J'ai trouvé ça très... Non, c'est vrai que c'est intéressant, etc. Le stoïcisme, alors... Après, tu vois, moi, je suis très... comment dire, un peu... J'ai un peu farfouillé. Et je tombais sur un article négatif, tu vois, qui disait que le stoïcisme, c'était un petit peu la nouvelle lubie des stars, des patrons de la Silicon Valley. Mais tu sais qu'ils l'appliquaient d'une manière dévoyée, tu vois. Alors, je te vais pas demander de faire un cours sur le stoïcisme, hein, mais... Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, cette approche-là, en fait? Parce que quand on a discuté, tu m'as dit vraiment que ça fait un truc qui est vraiment très important pour toi. Et comment tu vois les choses, en fait, là-dessus?
Eh bien, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que si tu en parles à quelqu'un qui connaît pas qui saura pas relier stoïcisme à vraiment ce que c'est et de quand ça date, ou si tu omets carrément de dire et de poser le mot stoïcisme, si tu parles des fondements de la philo, tu te dis oh, ça c'est quelque chose qui vient de sortir entre guillemets et qui est là pour tamponner un peu le stress de la vie moderne. Ça te paraît très 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 actuel et en fait on te dit ben non, ça a 2000 ans. Et en fait, ce que je trouve énorme, c'est que ça vient vraiment apaiser notre espèce de machine à penser. Sénèque disait beaucoup on souffre plus de l'imagination que de la réalité, et c'est vrai. Et c'est comme ça, hein, je l'explique dans un article que j'aime beaucoup relire. Je suis rarement satisfait pleinement de ce que j'écris, et celui-là, il y a pas, j'aime bien. C'est ma petite exception, un article qui parle un petit peu de pourquoi on est négatif. Et en fait, c'est évolutionniste, c'est tout à fait normal de se faire un sang-d'angle, d'évaluer toujours les pires scénarios. Il y a 10 000 ans, tu rentres dans une grotte pour t'abriter de la pluie, valait mieux faire 3 fois le tour pour être sûr qu'il n'y ait pas une bestiole prête à te manger que de se dire c'est plutôt pas mal ici de faire un feu et de te faire bouffer. Là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est ok, on est comme ça, par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut relâcher. Concrètement, c'est, je pense, au début, faire la différence entre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, bah, ton meilleur moyen, entre guillemets, pour pas perdre de plume, c'est de l'accepter tel qu'il est. Par contre, ce qui est en ton pouvoir, tu n'as absolument pas d'autre choix que d'y mettre 100% de ton énergie et de ta volonté. C'est un moyen de réinvestir un petit peu son énergie et sa pensée de manière plus efficace. Ça sert à rien de pousser contre un mur, tu n'arriveras pas à le bouger. Par contre, il y a des choses que tu peux déplacer. L'idée, c'est vraiment de jongler avec ça et d'essayer de prendre conscience des choses. De prendre plus conscience. En fait, c'est d'être plus présent dans le moment, en fait. J'aime beaucoup l'idée. Je passe beaucoup de temps à expliquer les principes de la visualisation dans des séminaires. Et je dis, bah voilà, grosso modo, quand on visualise, on pose un drapeau à l'horizon et ça nous permet de nous guider. Nous, notre conscient, mais aussi notre inconscient. Et en fait, les stoïciens, par exemple, ils parlent de visualisation négative. Alors, les gens me disent, bah non. Si tu visualises l'obstacle, tu vas te le bouffer. Et en fait, il y a une petite nuance, c'est les stoïciens, des fois, ils aimaient... Alors, Marc Aurèle, Sénèque, ça date vraiment d'il y a très très longtemps. Ils aimaient bien penser à leur journée parfaite. Et derrière la journée parfaite, c'était « Ok, qu'est-ce qui peut clocher ?» Et en fait, en visualisant les différents obstacles de leur journée, ils disaient « Ok, bah du coup, si je passe par là, je suis sûr d'éviter tous les obstacles. » Et en fait, ils revenaient à quelque chose de positif, puisqu'en fait, visualiser ce qui pouvait clocher leur avait permis d'identifier le chemin encore, le meilleur chemin, le chemin sans embûche. Et j'aime beaucoup ça, en fait, se poser énormément ces questions-là et allouer son énergie qu'à ce qui en vaut la peine, en fait.
Ouais. Mais en fait, tu sais, je me rends compte que je cours de manière stoïque. Non, voilà, pourquoi je dis ça? Parce que je me suis mis au minimalisme, mais au plus de minimalisme dans la course à pied. On a fait un épisode avec ça. Et je racontais, alors, dans un épisode du Nakan CH podcast, sur, on a fait j'étais invité sur le minimalisme. Et moi, je cours en Merrell Five Fingers, donc il y a, voilà, il y a qu'une petite semelle, et j'ai découvert le pouvoir des cailloux, en fait. Tu sais que les cailloux, ils te font mal aux pieds, quand même. J'ai dit, putain, le premier jour, tu te prends un caillou et tout, il tape dessus, tu te dis. Et quelqu'un m'a dit, bah, ça t'apprendra à lever la tête et anticiper l'obstacle, tu vois. Et c'est un truc qui est vrai, parce qu'en trail, des fois, on a des grosses semelles, on passe à côté, on se rend même plus compte qu'il y a des cailloux. Et là, tout d'un coup, tu te dis, attends, ce caillou pointu là-bas, si je veux pas qu'il me fasse mal, il faut que je l'évite. Donc, c'est pas de regarder, de dire, il n'y a pas d'obstacle. Non, c'est de regarder où est l'obstacle et de te dire, bon, attends, si tu fais le pas de côté, quand même, t'es pas mal, tu vois. Hier, sur mon cross, il y a un moment donné, au lieu de tourner à l'arbre où il y avait de la boue, tu te dis, tu tournes juste un petit peu à côté, là, tu vois, où il n'y a pas de boue. Putain, ça repartira mieux, cette histoire, tu vois. Et en fait, on se rend compte qu'on l'applique d'une manière, parfois, un petit peu involontaire, hein, il y a des trucs. Mais je me suis rendu compte, tu vois, quand tu viens de me l'expliquer, je me dis, mais attends, mais en fait, je l'applique en course à pied depuis, pas si longtemps que ça. C'est vrai, le minimalisme m'a obligé à le faire, parce que sinon un jour, j'ai tapé dans un caillou, je me suis arrêté, j'ai pris une photo du caillou et je dis, toi, je te marcherai plus jamais dessus tellement tu m'as fait mal. Mais maintenant, je sais où il est, tu vois, ce caillou, je le vois, donc je sais l'éviter, je prends plus le chemin ou je contourne le chemin, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ce que tu disais, tu sais, sur ce truc de truc à la mode, c'est je sais pas si tu connais Ryan Holiday, mais probablement, ouais, qui a fait plein de bouquins. Ouais. Et Ryan Holiday, il est dans le stoïcisme, en fait, et il a fait des bouquins, il a fait plein de trucs là-dessus. Il a été excusé, d'ailleurs, de dire que, finalement, il s'en servait un petit peu pour faire son business, hein, dessus. Il vend plein de trucs dans le sujet, etc. Et effectivement, quand Ryan Holiday s'est mis à parler de ça, les gens disent, waouh, c'est génial, cette philosophie. Et puis, au bout d'un moment, on dit, ouais, attends, regarde, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui existe depuis des milliers d'années, hein, comme tu dis, parce que Épictète, c'est, t'as une année à peu près quand même pour nous situer à peu près le truc,
ben,
là.
C'est un peu de temps après zéro, en fait. Vraiment très
voilà. Voilà, donc on est vraiment dans des trucs qui sont très anciens et qui pourtant, le jour, tu m'as donné une image qui était super intéressante. Tu m'as dit, on dirait qu'ils ont écrit ça comme si ils vivaient à Paris maintenant, en fait.
C'est ça. Et en fait, le grand livre pour Sénèque, par exemple, c'est des lettres qu'il a écrites. Et il écrit, il est à Rome et il dit que il y a beaucoup trop de bruit, qu'il comprend pas et regarde. Par la fenêtre, les gens font des trucs incroyables, ils soulèvent des trucs lourds, ils parlent, c'est le bazar. Et puis ils le font dans un espèce de négativisme ambiant, ils en sont énervés, abrutis, etc. Et lui, il dit, mais j'arrive même pas à me concentrer avec tout ça. Et en fait, c'est trop marrant parce que il est à Rome il y a 2000 ans et toi, tu as l'impression qu'il est là en train de t'écrire un texto en disant, je suis dans le centre-ville de Paris, la circulation, tout ça, il y a des travaux, c'est horrible, je comprends pas, je suis pas tranquille, il me faut du calme. C'est vraiment génial.
Ouais, c'était quoi leur Instagram de l'époque, je sais pas, leurs réseaux sociaux, tu sais, le push, on se demande ce que c'était. Il y avait forcément quelqu'un qui venait les interrompre. Et ce que tu disais, ce qui est intéressant aussi sur l'histoire de notre cerveau qui se focalise sur le négatif, c'est normal, c'est ce qui nous a permis de survivre, hein, tout simplement, hein. Notre cerveau est une machine à évaluer tout ce qui va mal se passer pour faire en sorte qu'on survive à ce qui va mal se passer. Et j'avais écouté ça il y a pas très longtemps et quelqu'un disait ça, je disais, c'est vrai que on est obligé de le faire, notre cerveau, c'est son boulot, en fait, hein. Son boulot, c'est de se concentrer sur ces aspects-là, et c'est vraiment ces aspects-là qui sont vraiment importants pour lui, parce que le boulot de notre cerveau, qu'on se le répète, hein, c'est de nous garder en vie, hein. C'est de faire le mieux possible. Et alors, si vous voulez vous en rendre compte vraiment, et je reviens sur le sport, courez un jour un marathon, vous allez vous rendre compte qu'au kilomètre 30, vous êtes au bout de votre vie, et qu'au kilomètre 41, quand vous voyez le panneau arriver, tout d'un coup, votre cerveau dit, ouais, allez, c'est bon, je sais que tu vas arriver au bout, je te redonne l'énergie qui te manquait. Et là, tu te dis, ah, t'es quand même un sacré couillon, mon gars. Le cerveau central. Et j'ai lu dans un bouquin cet été, et j'ai revécu mon marathon de Paris, je me suis dit, punaise, mais c'est pas possible. Et c'est là où le sportif de haut niveau, il a des ressources aussi pour lutter contre son cerveau qui, des fois, lui dirait, non, mais tu dois pas y aller, là, t'en dois, et tout. Et le sportif de haut niveau, lui, il doit y aller. Il doit pousser la machine à cet endroit-là. Parce que lui, s'il y va pas, il passe pas le truc de se dire je vais descendre à fond sur mon vélo, je vais sauter sur une bosse ou je sais pas quoi, ou alors je vais soulever je sais pas combien on fait en soulevé de terre, mais les mecs qui font de l'haltérophilie, tu dis attends, tu peux pas passer sous cette barre là qui peut t'écraser quoi.
C'est exactement ça, quand tu la jettes en l'air et tu essaies de passer le plus vite possible en dessous les bras tendus, techniquement parlant, ton instinct de survie dit c'est peut-être pas nécessaire tout ça.
Ouais, c'est pas nécessaire tout ça. Et le sportif de niveau, lui, il va aller là-dedans. Nous, on va garder une zone de confort. Et je rappelle, hein, pourquoi j'aime bien lire Seth Godin, Seth Godin dit que cette zone de confort, eh ben, elle nous amène aussi des fois dans l'inconfort, parce que si on y reste trop longtemps, on n'est pas très bien au bout d'un moment. Il y a un truc qui cloche. Mais il faut se rappeler que notre cerveau, lui, il est bien dans cette zone-là quand même, parce que il se dit. Ben quand même, si la barre elle me tombe sur la gueule, j'ai un souci. Donc on est là-dedans. Allez, on va avancer. Je t'ai demandé, alors je sais pas si tu y as pensé, sur une histoire de mantra. Est-ce que tu as une petite phrase, un mantra, quelque chose comme ça qui te revient?
Ben, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai mon côté un peu littéraire qui m'amène à toujours chercher les belles citations et en garder certaines. Moi, j'adore Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et aujourd'hui, pour se lancer dans un projet. Sur les moments de doute, à celui-là, il te met le feu, en fait. Il te met le feu. Et j'aime beaucoup sortir un peu de la norme. Quand on me dit ça se fait comme ça, généralement, ma première idée, c'est de trouver une autre façon de le faire. Et j'aime beaucoup Mark Twain avec le « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».
Ouais.
Ça, c'est puissant, très, très puissant, je trouve.
Et tiens, ça nous amène sur l'autre voie aussi, Rich Roll, hein, et on va arriver dessus. T'inquiète pas, sache que tu es sur la bonne voie. Tu sais, il y a cette phrase là, faites ce que vous aimez ceux qui vous sont chers, soyez au service des autres et sachez que vous êtes sur la bonne voie. Et tu sais, cette phrase là comme ça, elle est super tranquillisante quand même. Tu te dis, quand tu fais tout ce qu'il faut pour toi, pour les autres, pour être bien et ton maximum là-dedans. Tu es sur la bonne voie, tu vois. On parlait tout à l'heure des habitudes, des trucs un peu destructeurs, tu vois. Moi, j'étais obèse aussi, enfin. Et à un bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux te laisser dans une facilité, mais quand tu fais les efforts pour essayer de le petit pas que on parlait tout à l'heure, hein, qui dépasse les motivations, il t'amène sur la bonne voie. Tu sais pas où il t'amène, en revanche, mais il t'amène quelque part. Alors, puisque j'ai parlé de Rich Roll, j'ai marqué dans mes trucs un mentor, mais au lieu de parler de mentor, moi il y a un truc qui m'a intéressé dans la discussion qu'on avait eue en message privé, c'est que tu m'as parlé de ton conseil des sages. Alors c'est quoi ce conseil des sages?
Grosso modo, quand je fais face à une question, un dilemme, quand j'ai besoin d'un petit peu rassembler mes idées et prendre une décision, eh bien je me pose souvent la question, je me dis comment un tel il aurait réagi. Comment un tel, qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il ferait dans ma situation. Et en fait, il y a des gens que j'aime beaucoup pour différentes raisons. Rich Roll en fait partie, tu vois. Le côté, tu disais, c'est apaisant et tout. Effectivement, moi, c'est ce qui me transmet. Il a un cool, ce mec. Il a une sagesse et un cool qui est extra, quoi. Il est excellent. Je pense que n'importe quel surexcité serait complètement apaisé en sa présence, quoi. J'aime beaucoup son idée, sa façon de faire, ce qu'il transmet, l'équilibre qu'il met entre ses projets, sa famille, sa maison. Des fois, je me dis, ok, comment il aurait réagi en fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et il y en a d'autres comme ça en fait. Je me suis fait une espèce d'une petite table ronde, tu vois. Et donc j'ai mis Simon Sinek parce que j'aime beaucoup. Son calme aussi et la contagion de l'inspiration. Ouais. Il a des belles idées et dans ses vidéos, ses conférences, tu sens que il cherche ses idées et il est content de la partager et c'est contagieux, c'est vraiment contagieux. Moi, quand il me raconte son histoire de bagel gratuit, c'est un moment qui tourne assez souvent dans ses conférences. Moi, je suis fan, je suis super fan.
Alors Simon Sinek, pour préciser quand même, Simon Sinek, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a écrit. Alors j'ai perdu le nom exact, mais c'est l'histoire du pourquoi. Hein, il faut trouver son pourquoi, etc. L'importance du why, hein, du pourquoi, etc. Ça fait partie vraiment des choses. Tu vois, j'ai mis dans les notes de l'épisode. Je savais pas à quel point. Je savais pas qu'il faisait partie de ton conseil des sages.
Si complètement. J'ai pas trop approfondi son contenu écrit, mais par contre, je trouve qu'une vidéo de lui t'amène énormément de choses. Quand il parle de la question des millennials et qu'il l'a décrit. Qu'il l'approfondit, je me dis, mais il a une perception des choses, ce mec, c'est incroyable, quoi. Et la façon dont il le redistribue, je trouve ça incroyable. Et moins connu, nettement moins connu. Tu as Carl Paoli, qui est un gymnaste qui fait énormément de conférences pour décrypter les mouvements, principalement autour de la gym et du crossfit. Et pareil, il a une petite vidéo sur YouTube, un micro-documentaire qui fait 7 minutes, qui s'appelle Fit to Be, et qui t'explique sa vision des choses. Et en fait, pareil, je trouve qu'il y a une certaine sagesse, et c'est un mec qui était complètement cloîtré dans sa niche du « je sais faire de la gym, je sais expliquer et te créer le déclic pour que t'aies le bon mouvement, je te l'explique », à « mais en fait, au-delà de ça, le gymnaste, c'est un homme, c'est un être humain ». Et du coup, il a une façon d'organiser sa vie. Quand il arrive au gymnase, il s'est passé des choses dans sa journée. Et j'aime bien comment il parle de tout ça, en fait. Et derrière, Mark Adams. Adams à tous les gens en recherche de motivation. Je leur propose le TED de Mark Adams. Son premier TED avait été supprimé. Le deuxième, c'est une décharge d'énergie de 15 minutes. C'est un mec, tu le vois sourire. Déjà, il sourit tout le temps. Donc, en fait, tu le vois. T'as la banane. Et il a une énergie, il te captive l'audience, et c'est du passe à l'action. Théorise pas trop, passe à l'action. Fais. Il a une très belle histoire qu'il raconte dans son TED, et c'est ça la grande conclusion, et ce qu'il y a derrière tout ce qu'il dit, c'est fais, passe à l'action. Et donc, du coup, tous ces personnages-là, ben, ils ont une certaine couleur, une certaine tessiture dans leur approche des choses. Et j'aime bien me dire, ok, imprègne-toi un peu de ça, là, de ce qui dégage, et regarde un petit peu si tu poses ce filtre sur ta situation, qu'est-ce que t'en tires. Tu sais, c'est un peu comme se poser les questions différemment.
Ouais.
Là, en fait, c'est un peu ça. Je propose plusieurs interprétations qui sont pas les miennes, et des fois, elles m'inspirent.
Voilà, donc c'est ton conseil des sages. Alors, t'arrives à les faire venir régulièrement ou ils sont un petit peu compliqués à faire?
En fait, c'est un réflexe, mais ouais, au début, ils sont compliqués à convoquer. Parce qu'au début, déjà, je les ai choisis parce que je les aime beaucoup, mais je les ai aussi choisis parce que j'ai tellement vu et lu ce qu'ils proposent que derrière, j'arrive un peu à avoir leur mindset, en fait, leur vue, leur filtre des choses. Donc, ça met un peu de temps. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est un peu réflexe sur les grandes questions pro, perso, etc. C'est un peu un réflexe. J'aime beaucoup comparer. Je vais aller très vite vers les gens et leur demander un peu ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Et je trouve toujours un lien à faire avec mes questions du moment. Je m'inspire énormément des autres. Puis, bah, par chance, on est 7 milliards, donc il y a de quoi faire.
Ouais.
Et du coup, eux, je sais que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est un peu comme quand tu te mets à rechercher, alors toi, pour la course à pied, même la santé, la nutrition, etc. Quand tu te mets à trouver une source en qui tu as confiance, parce que tu sais que son process, il est propre. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui donne son avis, mais qui avant tout te rapporte les faits scientifiques et qui n'osera pas aller au-delà et qui surtout ira très vite vers la correction s'il s'aperçoit que la science infirme ce qu'il a dit, etc. Enfin, quand t'es ok avec sa vue, son éthique, etc., tu te dis, ben ok, allez, c'est parti. Je veux tout savoir, dis-moi. Et ben là, c'est un petit peu ça.
D'accord. Eh ben, c'était un chouette épisode. Hein. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Là, on a balayé, mais entre la créativité, le blogging, le stoïcisme, le sport, les habitudes, etc. Hein, c'est ça. Hein. Le corps, l'esprit, tout ça, tout est relié ensemble comme ça. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va dire où est-ce qu'on peut te retrouver.
Eh bien, déjà sur les réseaux, Instagram, Facebook, Coaching Fruité, sans l'accent à la fin. Et après, j'ai mon site perso coachingfruité.fr sur lequel je publie sur la nutrition, les habitudes, le zen, et sur YogiLab directement, yogilab.fr, YogiLab sur les réseaux mais avec un point, yogi.lab. Et bien là, j'y poste des articles, des vidéos sur la plateforme, sur le contenu abonné, sur la motivation, les neurosciences du yoga, la nutrition, un peu tout, le sommeil, le stress. Je prépare pas mal de séries vidéo. Et voilà, grosso modo, après, ici et là, mais en me suivant sur les réseaux avec Coaching Fruité, techniquement, vous êtes au courant de tout ce que je fais.
Voilà, et puis si vous allez voir sa belle grille Instagram, vous verrez, il y a tous les points, les couleurs, etc. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont... ça fait en façon d'amis, hein, donc je leur dis, parce que c'est agréable à l'œil quand on arrive dessus, et ça fait partie, hein, quoi qu'on le veuille ou pas, on peut dire ce qu'on veut. Une page Instagram, un compte Instagram, quand on arrive dessus, c'est une page d'accueil quand même, hein, et on arrive à balayer, on sait de quoi tu parles, on connaît tes thématiques, on voit aussi... Alors, tu vois, on voit le côté carré aussi, tu vois, dans, j'ai envie de te dire, dans l'histoire. Donc, on peut se dire que t'es carré. Puis, quand on regarde des stories, tu vois, il y a des choses, ça, on peut dire que ça correspond, tu vois, ça a l'air structuré, tu vois, cette histoire-là. Même si les gens peuvent se dire, c'est bizarre, son conseil des sages, ça a l'air, puis, cette histoire de ton cerveau, il débarque une heure après toi, etc. Ça a l'air, tu vois, comme ça, dit, un petit peu foufou dans l'histoire, mais en fait c'est beaucoup plus structuré qu'il y paraît, hein, moi je pense, hein, dans la manière. Et c'est vrai qu'on voit vraiment, et c'est pour ça que je te remercie vraiment pour d'avoir accepté l'invitation, parce que c'était vraiment super intéressant de voir aussi, tu vois, parce que je le dis souvent, moi je te vois, mais là on diffusera qu'en audio, mais je vois ton sourire depuis tout à l'heure, je te vois bouger, etc., je te vois passionné, et je sais que les gens, tu vois, je suis sûr, on peut faire un sondage, et vous pouvez me répondre là sur en Twitter, en tout ce que vous voulez, sur ou l'envoyer un message à Rémi directement. Je suis sûr qu'ils ont ressenti, tu vois, ce côté-là et tout. Moi, je me dis, tu vois, là, on a des gens avec eux, on est en voiture tout de suite, ou dans le métro, je sais pas quoi. Ils sont assis à côté de nous, là, ils sont en train de nous écouter. Et ils disent, waouh, ouais, tiens, les gars, là, ils sont bien quand même. Tu vois, ils ont le sourire, ils ont la patate, etc. Et en fait, c'est ça aussi, tu vois, la marque. Je te demandais, qu'est-ce qui fait ta marque, etc. Tu vois, ça fait partie de ça, en fait, hein, ces histoires-là, de partager sa passion, de montrer qu'on est passionné, etc. Pour ça, je dis, il y a plein de gens, ils cherchent des niches, des sujets en pagaille. Ah, je vais aller là-dessus, c'est à la mode, etc. Il y a même des créateurs de contenu, tu sais, ils disent, allez, je te propose la liste des 50 thématiques dans lesquelles il faut aller. Mais en fait, si t'es pas passionné par cette thématique, t'arriveras pas à partager, tu vois, ce genre de choses, etc. Et toi, ce que je trouvais super bien, c'est que tu le transmets, tu le retransmets. Et puis, t'es aussi dans un début de parcours, tu vois, fais pas partie des gens que tout le monde voit déjà. Donc, je te trouve le côté, tu vois, inspirant, etc., ton parcours super intéressant. Et puis, bon, enfin, je savais pas que t'avais vendu des disques, etc., tu vois, mais c'est, on découvre des trucs, mais j'avais découvert des trucs sur Tiffen aussi, je savais pas qu'il était juriste avant, tu vois. C'est aussi pour ça, il y a des gens qui se demandent, mais comment on fait ces trucs-là? Je le dis, hein, et tu peux en être témoin, il y a très peu de préparation, je fais pas les interviews avant pour demander ce qu'ils font, etc. Parce que moi, j'aime bien la surprise, j'aime bien ce côté surprise, tu vois, d'aller à la découverte. Et donc, vraiment, c'était, vraiment super sympa. Donc, je te remercie beaucoup. On sait où te suivre, hein, pour tout ça, hein, c'est vraiment, et puis j'imagine t'as beaucoup de projets, hein, t'as commencé à en parler, mais j'imagine t'as beaucoup beaucoup de projets. T'as pas dit ton ebook, il sera où? On sera disponible où ton livre là?
Mon ebook sera dispo sur Yogilab. On le sort sur Yogilab. Il parle du petit déjeuner. C'est une question qui se pose souvent, et donc je la décrypte. Mon but, c'est de faire comme si on était tous ensemble. C'est pas moi qui écris et vous qui lisez. C'est, on se pose tous ensemble, on trie l'info, parce que bon, comme dans plein de domaines, hein, souvent il y a des mythes, il y a des choses qu'on a mal comprises, des choses qui sont véhiculées par le discours populaire, qui sont un petit peu, tu sais, un petit peu, détériorées avec le temps et les passages. Là, ouais. on remet un petit peu tout en ligne et on voit un petit peu ce qu'on peut tirer comme conclusion. Donc, comme d'habitude, hein, c'est fait avec beaucoup de mesures. Ça se termine pas par « faites ça, sinon vous avez tort
». Est-ce que tu vas nous dire si vraiment le petit déjeuner est inventé par les fabricants de céréales? Tu sais, c'est l'espèce de rumeur, tu sais, tous les gens disent « prenez pas de petit déj, c'est inventé par Kellogg's, de toute façon, ils voulaient vous vendre des céréales à gogo, etc.
Ben, » J'en parle dans le petit extrait qu'on va mettre en téléchargement gratuit, justement, pour se faire une idée. Il n'y a pas de réponse toute tranchée à ça, petit déj ou pas petit déj, mais effectivement, il y a des choses assez drôles, comme le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, d'un côté, tu as ça. De l'autre côté, bon, si tu questionnes un peu tout, tu dis, mais alors comment on peut savoir qu'un repas est plus important qu'un autre, etc. Et au-delà de ça, il y a, mais alors le jeûne intermittent qui revient grosso modo à se passer de petit déjeuner, ça a des bienfaits. Donc comment, en se passant du repas le plus important de la journée, on peut avoir des bienfaits? Alors du coup, tu te poses pas mal de questions. Donc effectivement, il y a des informations qui ont été un petit peu enjolivées par les vendeurs, on va dire, au sens très très large. Après, c'est pas parce que tu petit déjeunes que tu vas vers des problèmes de santé. C'est le petit déjeuner aujourd'hui qu'on étudie pas mal dans le bouquin, parce que le petit déjeuner classique occidental, effectivement, on a des petits trucs à redire. Par contre, on voit aussi comment le corriger et le rendre super sain. Hein. Donc, super sain et très très, comment dire, on va dire, le support de ta satiété toute la journée, en fait.
Voilà. Oui, en fait, oui, c'est important, hein, et je trouve que, tu vois, ce sera un sujet qui est super important, parce qu'il y a des gens, ils sont étonnés de voir mes petits-déj, etc. Et j'ai souvent raconté, je dis qu'en moi, le petit-déj, je le fais pas, j'ai faim toute la journée, et ça devient, tu sais, au fur et à mesure, la catastrophe, etc. Et en fait, c'est là où le truc le plus important de la journée, je sais pas, mais en tout cas chez moi, si j'ai pas mangé le soir, tu peux être sûr que j'ai la dalle. Tu vois, j'ai la dalle toute la journée. J'ai envie de manger une pizza, j'ai envie de manger des trucs, tu vois, que j'aurais pas envie de manger, etc. Et c'est lutte pour moi après, tu vois, dans ma journée. Et quand j'ai le jour où j'ai découvert ça, et chacun son mode de fonctionnement après là-dessus. Et on a nos petits trucs, mais je vous laisserai vous faire une idée. Et c'est pour ça, je mettrai tous les liens de toute façon hein, de tous tes mentors, ton conseil des sages, etc. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Tu m'enverras un lien pour que les gens sachent où aller télécharger un extrait du e-book pour voir tout ça. Je mettrai tout ça dans les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup encore une fois pour être venu, pour avoir passé du temps avec nous. On a fait un... Oh là, dis donc, on était bavards. on pourra faire une saison 2 un de ces jours. Parce qu'on aurait encore énormément de choses à dire. En tout cas, je te remercie. Voilà qui clôture en beauté, je trouve, cette semaine, tu vois, de contenu qui est magnifique. On se dirige vers le week-end. Et puis, ces histoires d'équilibre alimentaire, quand même, il faut y penser parce qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année. Hein, et fêtes de fin d'année, le mot écart devient une habitude. Et c'est ça, c'est un vrai problème. Donc, on va boucler là-dessus. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir ce que se fait Rémi, coaching fruité. C'est vraiment super intéressant. Je te remercie. Pour l'invitation et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao, bon week-end.
Salut, merci beaucoup pour l'invitation et puis à très vite.
Ciao.